Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Donc je m'appelle Guillaume, Snail sur Twitter.
Alors moi c'est Damien et mon pseudo c'est Annie.
Bonsoir, je m'appelle Rémi, c'est tout ce que je peux dire ou je dis autre chose?
Bonjour, je m'appelle Quentin.
Baptiste.
Je suis vice-président de
Tristan.
Je suis Lucien.
Salut, je m'appelle Marvin, j'ai 22 ans.
Bonjour, je m'appelle Flavien.
Benoît.
C'est hyper Adrien.
Je suis expert L'Oréal.
Sarah. Je me prenne un PJ.
Alors moi c'est Yvan.
Mon pseudo c'est Monochrome.
Je m'appelle Olitax.
Mehdi.
Marie.
Alors mon pseudonyme sur internet c'est Zenigame de Carapuce en japonais.
Renaud.
Mathieu Grimbert.
Puis voilà.
Bonsoir, je m'appelle TN4430.
Je m'appelle David Foster.
Félix Poulet.
Oui, bonsoir. Je suis Samy Lachieuse.
Jordan.
Francis.
Justine.
Sébastien. Chômeur, chef
Alors,
de projet.
Je m'appelle Sexy Neo Antonin.
Joe Patate.
Je m'appelle Hugo.
Eleonore Bridge.
Benoît.
Je suis Mimi. Rédac chef adjoint chez mademoiselle.com.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par l'AM UA.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue pour ce Studio 404 du mois de juin. Ah, que c'était bon d'entendre vos petits noms, puisque nous avons organisé il y a quelques semaines une soirée, tous ensemble, au Piole, à Belleville. Pourquoi nous avons organisé une soirée? Parce qu'on a monté une boîte. Hein, et pourquoi on a monté une boîte? Parce que Fibre a dit qu'il fallait qu'on gagne de l'argent et qu'on défiscalise. Et plus sérieusement, on a monté une boîte parce qu'on a plein de projets. Et d'ailleurs, on va vous en parler très rapidement. Justement, on fait un petit point. Donc, le mois dernier, on vous présentait Qualité, Q-U-A-L-I-T-E-R, qui sera la petite société qui va produire ces chouettes projets. Le Forum et Studio 404 étant les deux premiers. Et d'ailleurs, on est très contents, puisque les gens que vous avez entendus là, les nombreux pseudos que vous avez entendus là, vous les retrouvez sur notre forum qui s'est lancé il y a un mois et qui a déjà quelques centaines de membres. Et on rigole beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, enfin, personnellement, je trouve que c'est une très, très bonne surprise. Daz nous en parlera dans quelques instants. Et bien sûr, nous avons nos quatre chroniqueurs, nos quatre directeurs généraux, chacun de leur département de qualité SAS, que je vais accueillir aujourd'hui comme chaque mois. On commence par Fibre. Comment ça va, Fibre?
Ça va très bien.
Fibre, contrôleur de gestion RH.
On n'est pas à fond dans le positif, mais...
tu parles d'argent déjà.
Financièrement, bah, c'est mon métier, c'est bon, on va dire c'est ma fonction ici.
Ouais.
Non, on a... comment ça s'appelle? Aujourd'hui, on a formalisé... beaucoup de choses administrativement.
Oui. J'espère, on a 404 euros dans la caisse.
Voilà. Non, on a plus que ça. On a constitution du capital et on a commencé à faire du chiffre d'affaires. On fait partie des. Maintenant, on rentre dans la grande famille des podcasts qui ont gagné de l'argent en France.
Oh là, wow. Enfin, la grande famille, la petite famille. Hein.
Voilà, c'est ça. Parmi les élus, la cour des grands, en tout cas. Voilà. Et on a. Comment dire? On a fait une réunion de stratégique, là, à l'instant, qui a duré une heure. Et je peux vous dire que l'année 2016-2017 vous apportez du lourd. Voilà.
C'était très bien cette réunion stratégique. On avait une grande table avec le globe, comme ça, illuminé, rétroéclairé, et on posait des pions et on les avançait comme ça, et on les reculait. Mélissa, comment s'est passée cette soirée, puisque tu es notre responsable comme événementiel.
Voilà, en tant que directrice du BDE et de la communication de qualité. Je suis très très heureuse, nous étions très très nombreux.
Malgré la grève et le temps. Hein.
Et la pluie.
Ouais.
Du coup, on avait tous des têtes moches sur la photo. Mais les gens étaient très enthousiastes. Merci à tous d'être venus. Et merci au Piole de nous avoir accueillis. Puis c'est magnifique. J'en profite pour dire que j'ai fait une autre soirée cette semaine.
Ah, quoi, comment ça?
Et il y avait là mes fibres, vous étiez là, vous savez.
Ah, c'est vrai.
La soirée de lancement des podcasts de Slate, qui ne sont pas des concurrents. Fibres! Tu vois, j'ai prédit que tu avais dit ça. Voilà. Donc, les podcasts en France se développent grâce à 404.
Tu veux dire que plus il y a de pizzeria, plus les gens mangent de pizza, quoi.
Ouais, lance une tendance. Il y a eu plein d'articles dans la presse, on est cité dans le Figaro.
C'était critique ou pas, ça?
Ouais, c'est parce que je suis au régime.
Comment ça va, Sylvain, notre directeur des partenariats du commerce et qui a la plus grosse to-do de tout le monde?
J'ai une grosse to-do, là je suis en train de regarder mon Trello et effectivement j'ai présenté ce matin une roadmap auprès des actionnaires qui ont l'air satisfaits des engagements que j'ai pris pour la société, n'est-ce pas? Non, développer, c'est mon credo, c'est mon leitmotiv, je suis là pour rapporter du bif.
Sans te mettre la pression, c'est bientôt l'été, donc mets-toi-y dès demain.
Ouais, non, mais c'est prévu, c'est dès ce soir, Fibre, même.
Voilà, parfait.
Je vais même rêver de toi la nuit.
Il est bien ce petit contre-maître, Fibre, Fibre. Voilà.
C'est clair. Il met des petits coups de pression à tout le monde, comme ça.
Daz, comment ça va, Daz, qui a été l'architecte de notre forum, qui marche très bien, on est très content.
Il marche du feu de Dieu, je suis le premier surpris devant la stabilité de ce serveur. J'attends à ce qu'il se pète la gueule d'un moment à l'autre. Là, on est à pas loin de 600 utilisateurs enregistrés, le forum vit.
Ah, 601, je vois sur la map. Quelqu'un vient de s'inscrire de Bangkok.
Autour de 590 par là.
Ok.
J'en profite d'ailleurs pour dire à nos membres de la communauté de qualité là que on n'a pas de multi, hein. Donc parce qu'il y a un poste là qui s'est créé pour trouver les multi de l'équipe.
Les multi comptes, d'accord.
Les multi comptes, ouais. Pour parce qu'ils croient que réellement qu'en fait on a que ça à faire de faire plusieurs comptes chacun pour animer le truc. Non, vous animez ça tout seul les gars et j'en suis ravi.
On a des sujets quand même très très variés.
Oui, très variés. Il y a de la fanfic, y a un peu borderline. Alain Soral, si tu m'entends. D'ailleurs, on a un compte à régler, l'âme. Il y a des propals de trucs à lire, de trucs à écouter, de
ça
trucs
parle
à voir.
Ça parle de bouffe, ça parle de réseaux sociaux.
C'est très très cool. Très cool.
C'est un chouette forum point de qualité. Ouais.
Et du coup, j'en profite aussi pour faire un coucou à ceux que je vais bannir dans pas longtemps.
Celui. Enfin bon, bref, on s'arrête. Allez, en tout cas, on commence tout de suite avec le premier sujet et c'est Sylvain qui va nous parler de ces gourous du web 0.1 qui voudraient maintenant le remplacer qu'un web 3. Je ne sais plus combien.
Sujet numéro 1.
Suivrez-vous le nouveau rêve des pères fondateurs du web?
Tout à fait là, mais je vais commencer quand même avec un petit disclaimer parce que la loi nous y oblige. Le récit suivant que je vais vous raconter a été rédigé suite à un voyage presse sponsorisé.
Par qui? Par HP?
Tu vas voir. Salut les choux, je parle rarement de numérique sur mon blog Voyage et Maquillage, voyageetmaquillage.fr, tout accroché au pluriel. Mais quand la NSA et Doritos m'ont invité pour visiter les États-Unis, je me suis dit que ce serait l'occasion d'en parler un peu, mes choux. Sur la photo, alors je porte un top Urban Outfitters et des sandales Birkenstock. Ah, et pour l'hôtel, je remercie également la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Merci, c'était cool. Voilà, c'était ma petite intro Jérém Star. C'était il y a 2 semaines. Ce matin-là, le soleil déjà haut filtre à travers la brume qui baigne la baie de San Francisco. Et oui, j'ai rendez-vous au 300 Funston Avenue. Un grand cube blanc se dresse devant moi. La modernité des matériaux contraste avec des éléments traditionnels de l'architecture de la Grèce antique. Colonnes de marbre blanc et bas-reliefs. Je suis où? Je suis devant la bibliothèque d'Alexandrie de notre ère numérique. Devant moi s'érige le bâtiment qui héberge 15 pétabytes de contenu.
De pétabytes.
Ce matin, j'ai rendez-vous à l'Internet Archive, la grande archive du web créée en 96 par un monsieur qui s'appelle Brewster Kahle, avec un objectif en tête, donner accès de manière universelle et gratuite à la connaissance du monde.
Eh ben dis donc,
tout simplement.
C'est grandiose tout ça.
Voilà, donc pendant 2 jours, en ce beau mois de juin, dans ce lieu solennel et spirituel, il s'agit d'une ancienne église, dans ce lieu va se tenir, dans une relative discrétion, le Decentralized Web Summit. 2 jours de conférences et d'ateliers pour penser un web décentralisé. Alors, encore un truc de hippie, vous allez me dire, et vous avez raison, mais pas n'importe quel hippie. Alors que je déambule dans la nef qui accueille les conférences, je tombe sur une guest list égarée sur un coin de table. 300 personnes sont attendues, des web architectes, des activistes, des archivistes, des hackers venus des 4 coins du monde. Bangkok, Boston, Londres, Lisbonne, New York, Berlin, un petit peu comme les membres du forum de qualité. Et tout en haut de cette liste, 2 noms qui retiennent mon attention, Vint Cerf et Sir Tim Berners-Lee. Alors là, je suis choqué, mais pas déçu. Cerf et Berners-Lee font partie des pères fondateurs d'Internet et du web. Le premier, Vint Cerf, il a inventé le protocole TCP/IP. Donc en gros, c'est l'infrastructure d'Internet, tout simplement. Ben ouais. Et le second, il a inventé un protocole qui s'appelle le World Wide Web, un truc bizarre, WW. Voilà, je me dis rien que ça, ok, les deux patrons sont là. Un invité que je croise dans un couloir me tend son Fairphone, qui tourne sur Firefox OS, pour que je puisse consulter le programme. Donc j'attrape le précieux appareil open source et équitable, et puis sans faire exprès, j'active la rotation de l'écran. Donc le téléphone freeze, puis reboot. Je finis par dénicher un flyer papier, hein. Et je regarde le titre des conférences, un web qui s'archive soi-même, par Vint Cerf, redécentraliser le web, question de stratégie, par Tim Berners-Lee. Quant à notre hôte, donc Brewster Kahle, son introduction, elle est baptisée « Garder le web ouvert, un appel pour un nouveau web décentralisé ». Alors je commence vite fait, tu vois, à transpirer un peu. J'imagine déjà la NSA débarquer, le FBI nous courser un petit peu dans les couloirs. Et je me dis qu'on court pas très vite en Birkenstock. Et je regarde autour de moi et tout le monde est en Birkenstock. Et je me dis « Merde ». Donc ils sont 300, hein, ces Spartiates, qui représentent l'élite du web tel qu'il aurait dû être, tel qu'il avait été imaginé et conçu. Donc un web décentralisé, c'est-à-dire un réseau de pair à pair qui permettrait, par exemple, là, d'envoyer un mail à Mélissa sans que mon mail y parte de l'autre côté de l'Atlantique, ils reviennent, ils atterrissent sur le smartphone alors qu'on est à 50 cm l'un de l'autre dans la même pièce. Un vrai web de pair à pair où il n'y a pas de centre aux États-Unis, ni en France, ni en Europe. Donc je me dis que là, que j'assiste quand même à un événement historique, quelque chose qui va marquer l'histoire, puisqu'ils vont essayer de recréer ce nouveau web tel qu'il aurait dû être. Les confs commencent. On apprend qu'il est tout à fait possible de construire un web décentralisé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et encore mieux, les intervenants ils nous expliquent qu'on peut le construire par-dessus le web qui existe. On n'a pas besoin de créer un nouveau réseau et de tirer des nouveaux tuyaux. Tim Biel, donc c'est son petit nom sur son réseau. Des fois, quand on dit son nom d'utilisateur, on dit « Oui, moi, je m'appelle Sylvain Palais sur le réseau. Bah, » Tim Berners-Lee, il dit « Je m'appelle Tim Biel sur mon réseau. » C'est le sien, c'est tout.
Donc, c'est la classe.
C'est la classe. Nous, il donne sa vision de comment fonctionne le web. Ça va vous parler. Afin d'obtenir des choses gratuitement, les gens, ils ont abandonné leur confidentialité et leurs données. Les gens le savent.
Le fameux...
Si c'est gratuit, c'est toi le produit.
Voilà.
Les gens le savent, ils ne sont pas totalement satisfaits, mais ils se disent que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le deal. Le deal, c'est filer ses données au système marketing en se passant nous-mêmes la corde de la surveillance au cou. Terrible constat que je traduirais en « les gens sont des Mongoliens ».
Je m'attendais un peu à ça.
Voilà. Notre cher Tim, il en a marre de ça. Il propose de séparer les données des applications qui utilisent les données. C'est-à-dire que moi, toutes mes données perso, elles seraient au même endroit sur un serveur que je contrôle, qui m'appartient, et c'est moi qui régulerai l'accès des applications Facebook, etc. à mes données. Il propose un point archive que chacun obtiendrait gratuitement et pour toujours, et toute notre vie serait dedans, même après notre mort.
Oh, c'est beau.
Ouais, c'est joli. Plein d'autres propositions émergent pour créer ces oasis de décentralisation. Vous avez peut-être entendu parler du protocole blockchain, par exemple, pour gérer un réseau de pair à pair. Mais ça impose aux gens d'être à la fois client et serveur. Je vais expliquer très simplement. Imaginons un Uber sans l'entreprise Uber qui prend les commissions.
Peut-on aujourd'hui expliquer un concept sans parler de Uber 2 ?
C'est le Uber 2. Non, mais là, ce serait un Uber sans Uber qui prend de la thune, en fait. C'est plutôt cool. Sauf que pour que ça marche, il faut que tout le monde participe et conduise sa voiture chacun son tour. c'est plus compliqué. En termes de contenu sur le web, ça voudrait dire que chacun héberge son contenu chez soi, ton blog, ton site, mais aussi peut-être un équivalent open source de Facebook ou Twitter. Tout ça hébergé chez toi sur ton propre serveur. Alors, je laisse un petit peu mon imagination dérouler. Et je m'imagine à Noël offrir un Raspberry Pi à ma mère et lui dire, tu vois maman, là tu tapes sudo apt install thunderbird-8 local server, on va configurer ton serveur mail, on aura fini pour le nouvel an à peu près. Donc à la fin de ces deux jours, j'ai un drôle de sentiment, je me dis quand même que ces idéalistes et intellectuels, ils sont un petit peu trop éloignés de la réalité. La réalité, c'est les gens, et les gens, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre Linux à mon avis. C'est toujours la même histoire finalement, une communauté New Age et utopiste qui veut révolutionner l'accès à la connaissance, c'est super. Mais ça marche quand on est 100 et qu'on est tous chercheurs au CERN. Si Internet n'est pas devenu ce réseau décentralisé démocratique, je ne suis pas certain que c'est parce qu'on a loupé une étape. C'est peut-être à cause de hashtag les gens. Et quand je parle des gens, je mets autant les utilisateurs que les startups, les éditeurs, etc. Donc c'est un terrible constat qui m'amène à poser une terrible question. Si on offre l'opportunité de créer un web décentralisé, co-construit, co-géré, démocratique, est-ce que hashtag les gens, nous, ne vont-ils pas reproduire encore et encore le même schéma, à savoir transformer l'or en... Donc, chers collègues, et néanmoins collaborateurs, et néanmoins chroniqueurs, et néanmoins amis, même si vous êtes de droite, vous qui êtes proche des gens, pouvez-vous imaginer pour nos Vinserf et Berners-Lee, qui sont un petit peu déconnectés, à quoi ressemblerait réellement ce nouveau web décentralisé, si on devait recommencer?
Ah, terrible constat.
Terrible constat.
Bah oui, on peut
donc, Sylvain,
complètement l'imaginer, ouais.
Daz, tu penses qu'on peut? Parce que Sylvain, en fait, il a vu un avenir qui est un avenir beau et propre, mais un avenir que.
Non, mais c'est impossible.
Qui est trop compliqué pour tout le monde,
c'est
quoi.
Impossible. Donc, assez rapidement, il y aura des intermédiaires qui te proposeront d'héberger chez eux ton serveur. Oui. Perso, voilà. Et du coup, on va recréer le truc à une plus petite échelle, et puis dans 30 ans, on sera comme aujourd'hui, quoi.
Mais en fait, un peu hors sujet, Hillary Clinton avait tout compris avant tout le monde avec son petit serveur mail perso
son
chez elle.
Son petit serveur mail et SMS perso.
Ouais,
carrément.
Carrément. Fibre, qu'est-ce que t'en penses de ça?
Le sujet est tellement vaste.
Est-ce que tu crois globalement à cette proposition des pères fondateurs du web? Que l'avenir du web revienne au fondement. Alors, du web, qui est un web décentralisé.
Je pense que c'est un idéalisme qui vraiment est déconnecté de la réalité. Pour
donc
la raison
suivante, avec Sylvain là-dessus.
C'est que le fondateur du web, c'est quand même un mec qui bossait au CERN, donc dans l'accélérateur de particules là.
Ouais.
Donc c'est pas le mec du coin, c'est pas votre grand-mère, c'est un mec poussé, tu vois. Et il dit, évidemment, de là-haut, il dit mais c'est super simple, regardez, il y a qu'à refaire ça. Non, c'est pas simple déjà, tu vois. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, aujourd'hui, l'internet c'est surtout www.quelquechose.com et le .com c'est pas anodin, c'est un point commercial. Ça veut dire que on est là pour faire de l'argent. Non, attendez, avant de tirer des conclusions trop rapides.
Ça passe par
bah ouais, le marketing, présenter bien les choses, attraper un marché le plus large possible. Et malheureusement, c'est ça. Et Linux, il a marché parce qu'il a pas de, il est extrêmement performant. Il a pas de solution de substitution fiable. Mais il m'a, on va dire, c'est un peu le serviteur sale que vous montrez pas à vos invités, qu'on met dans un coin dans les serveurs. Il fait tout dans la maison. Mais ouais. Personne vous le verrez quand, vous verrez jamais quand il rentrera dans la maison. Mais il est indispensable, tu vois. Ouais. Et en front, on a des tas d'interfaces plutôt jolies, plutôt lourde et parfois anxiogène, mais malheureusement, le bas peuple qui n'a pas besoin d'Internet et qui n'a pas envie de se taper 8 ans de Linux en a besoin.
Donc là-dessus, tu es d'accord avec Sylvain?
J'ai trop imaginé Linux, le cuisinier sans papier, tu sais. Il y a les flics qui viennent. Non,
c'est Dobby, c'est l'elfe de maison, en fait.
Non, mais parce que Linux.
Dans un placard, quoi.
Linux, on peut. Enfin, il est vraiment, c'est léger, c'est super performant, c'est méga fiable. Donc il est là où personne ne va jamais, c'est-à-dire dans les serveurs, tu vois. Et effectivement, chez nous, on n'a pas Linux, voilà.
Mélissa, est-ce que tu es d'accord avec cette vision et est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Il y a deux choses quand même. Il y a une vision de nos pères fondateurs du web et il y a le constat de la réalité.
Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'entre le moment où les pères fondateurs du web ont inventé le web et le moment où il est devenu vraiment mainstream, il s'est passé combien? Genre 20 ans?
Ouais, au moins.
Donc là, en fait, le truc qu'ils pensent maintenant, ça se trouve, des grands groupes vont se l'accaparer ou des autorités.
Bah donc c'est
parce que je pense que c'est pas. Non mais des autorités plus que des grands groupes pour le construire.
Encore foutu.
Non mais je veux dire si à un moment parce que les structures dont dépend le schéma actuel vont, enfin
ouais.
Y aura tellement de capacités de choses qui circulent que peut-être ça va exploser. Je suis totalement dans le l'imagination et genre quelqu'un va se dire ok maintenant faut réguler tout ça, pas la NSA parce que c'est gros connard, mais quelqu'un de d'un peu de sens, tu vois, va faire
un
quelque chose.
Early.
Un père fondateur, quoi exactement?
Mais il deviendra de facto un gros connard de toute façon. Enfin,
non, parce que si c'est pas un groupe qui a un intérêt commercial, si c'est juste une institution qui prend tous ces gens-là et qui se dit genre faut en faire un truc.
Ouais, comme une fondation à but non lucratif.
Firefox, tu vois.
Mais vous rêvez.
Non, mais Mélissa a raison. Par exemple, Firefox a réussi à prouver.
Et dans 20 ans, ça va mettre
un
an, ça va mettre 20 ans.
Firefox a réussi à prouver.
Le web est arrivé parce qu'on a eu des.
On faire un navigateur de merde. Voilà.
Non, Firefox a réussi beaucoup.
En termes d'institutions de haut niveau sur Internet, il y a l'ICANN, donc ICANN, qui régit l'attribution des noms de domaine. Et même s'ils sont neutres et hyper neutres au niveau financier, et ils essaient d'avoir de la neutralité façon suisse, j'ai dit trois fois neutre, mais c'est pour un peu insister là-dessus, ils sont quand même pas très neutres parce que ils libèrent parfois des petits noms de domaine qui vendent très très cher. Ouais. Il y a des choses qui sont pas super claires dans leur et il y a beaucoup de tribunes qui sont contre eux. Donc
pas d'accord avec une histoire d'institution, mais pour rebondir encore sur l'argument de Mélissa, et qui est intéressant, qui dit ça va arriver, mais ça va prendre du temps. Quand on écoute ta chronique, Sylvain, et quand on écoute ce que les pères fondateurs du web veulent faire, c'est-à-dire un web le plus propre, plus idéaliste, etc., ça me fait penser un peu au mouvement de la bonne bouffe qu'il y a depuis quelques années. Ça fait 20 ans que des gens crient « il faut arrêter avec la malbouffe, il faut arrêter avec l'élevage de masse, etc. etc. » C'est un truc qui était partagé par une minorité de gens qui avaient les moyens de bien manger, etc. Et on voit aujourd'hui, finalement, 20 ans plus tard, c'est un phénomène qui se généralise. Les marques de soda et le fast-food baissent. Les gens commencent à acheter pour acheter quelque chose qui a une histoire,
etc. Et pour quelle raison, la MUA? Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu une prise de conscience.
Oui, mais alors du coup, Mélissa parle d'une prise de conscience lente qui prendrait du temps, mais qui est possible.
Mais c'est impossible, ça veut dire qu'il faudrait
les gens, ils s'en foutent d'Internet. Enfin, pour l'instant, il y a plein de gens...
Oui, mais peut-être qu'ils s'en foutent comme s'en foutaient de la bouffe.
Mais je pense que plus tard, ils s'en foutront encore plus. Parce que
non, mais attends, tu déconnes ou quoi? Entre il y a 10 ans et aujourd'hui, Internet, c'est genre des heures par rapport à 10 minutes.
Non, mais je suis d'accord, mais les gens, ça veut pas dire qu'ils savent mieux comment ça marche qu'il y a 10 ans. Moi, je pense que c'est même le contraire. On a tellement encapsulé le truc qu'ils savent même plus ce que c'est que un client serveur et du TCP/IP.
Internet égale Facebook pour la
voilà.
Bien sûr, mais la révélation des affaires de surveillance et tout ça, les gens comprennent à quel point ils sont en train d'abandonner. C'est lent.
Mais ça, le truc, c'est que par exemple, Edward Snowden, quelqu'un qui est entré dans le domaine du grand public et qui a été une prise de conscience, en tout cas globale, et pas juste entre 25 chercheurs et 10 journalistes. Ouais,
mais Edward Snowden, pour les trois quarts des gens, c'est un mec qui s'est sacrifié pour que rien ne change, en fait.
Non, mais bien sûr, mais c'est encore mais
peut-être
hein,
que
c'est
la conférence,
début,
peut-être que la conférence avec laquelle Sylvain a assisté, c'est une des conséquences.
À mon avis, vous vous trompez un peu là-dessus, parce que si on fait une analogie avec Matrix, en fait, je pense que le type, bah oui, c'est un peu facile, mais bon.
On appelle ça le point Wachowski.
Mais oui, non, mais il est bien en plus. Dans Matrix, il y a un type qui dit, mais moi, je veux rester branché à la matrice et continuer à bouffer des steaks.
De la viande.
Oui. Voilà. Et donc, je veux pas me réveiller. Bah, je pense qu'il y a plein de gens, en fait, qui se contrebranlent. Si demain, tu leur dis, pour être complètement libre, il faudrait que t'aies ton petit serveur chez toi, ils vont te dire, bah, c'est pas grave, je suis pas libre, c'est pas grave.
Mais comme dit Mélissa, justement, si on parle de trucs à long terme et de masse, si aujourd'hui on apprend aux gens à coder, à se débrouiller, à mieux connaître, on aura quand même une génération qui connaîtra beaucoup mieux.
Non, depuis combien de temps, depuis si combien de temps la voiture existe?
Regarde, qui vient t'installer ton serveur facilement, ça va bien se passer.
Oui, mais alors ce mec, il est payé par quelqu'un?
Non, mais oui, il y aura forcément des services qui vont se développer de la même manière que Google a fait Gmail et a pris un procédé. Non,
mais attends, bah oui, mais Gmail, c'est pas gratuit.
Votre raisonnement, il est un petit peu absurde parce que votre serveur, votre électricité, votre connexion Internet, qui en plus il faut qu'elle soit tout le temps ouverte, à un moment vous allez vous dire ce serait bien de mutualiser tout ça.
C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui dit je vais t'héberger.
Et quand, le jour où on mutualisera ça, et ben on créera des sociétés comme Orange,
ben voilà.
Et on sera revenu en arrière. Donc ben on est voilà. Déjà dans un schéma optimum. Je voudrais juste rajouter quelque chose, on veut, je l'ai déjà dit, hein, je me répète, mais on veut se protéger de quoi? De nos données personnelles. Je vais même vous dire aujourd'hui.
Attention.
Non, mais aujourd'hui, attention. La NSA, ils en ont rien à branler de vos données personnelles.
Parce que, j'ai rien à me reprocher.
Je vais vous dire pourquoi. Non, c'est pas que j'en ai rien à me reprocher. C'est que aujourd'hui, ils analysent ce qu'on appelle les métadonnées. Parce que vos données personnelles, alors je ne parle pas de votre identité, tout ça, parce que OSEF, je ne parle pas non plus de ce que vous googlez ou de ce que vous achetez, parce que c'est tellement précis que ça biaise l'analyse de votre comportement au global. Et aujourd'hui, les gens utilisent des métadonnées. C'est un peu la bataille des canons contre les boucliers. Les canons, ils auront toujours un petit peu d'avance. Pour créer un bon bouclier, il faut connaître la force du canon. Et on va dire, les gens sont déjà en avance, notamment avec la big data, par exemple.
Donc ça veut dire qu'on a déjà donné une donnée et c'est accepté et ça fait partie du jeu.
Et tant pis.
Déjà, culturellement, je pense que tout le monde s'en fout. Mais s'il y a une prise de conscience globale, ça changerait rien. Parce que les gens utilisent des... si vous voulez, est-ce que ça vous fait chier de savoir que la SNCF, ça, c'est quand vous validez votre Navigo et à toutes vos données sur un an de vos passes Navigo. Et avec ça, il peut savoir quand est-ce que vous allez à la FNAC, quand est-ce que vous allez chez des copains et que vous rentrez chez vous.
Eh bien oui,
et
c'est votre amplitude moyenne.
C'est pour ça que je fais du vélo, je suis off the grid. Tu vois.
Ouais, mais monsieur fait du vélo, il loue des Vélib. Eh bien, ces Vélib, on sait quand est-ce qu'il les prend et qu'il les redonne.
Enfin, il est off the grid avec un smartphone Android. Hein,
ouais, c'est ça. Le mec, il a un smartphone, on sait exactement quand est-ce qu'il se connecte, sur quel réseau smartphone, on peut tracer au
plus en sortie.
On peut pas avoir cette vision pessimiste de ça va jamais changer. Parce que ton truc, c'est genre ça va jamais changer.
Mais ça va jamais changer, mais je suis hyper heureux, tant mieux.
Internet ne va pas évoluer, on est au maximum des trucs, des capacités, alors que c'est le truc à 40 ans max, tu vois.
Non, t'es au maximum. Maximum des capacités par rapport à ce que tu demandes comme investissement pour les gens qui s'en servent.
Mais actuellement, Sylvain.
Mais personne ne fera.
Philippe, t'as évoqué le fait que quand on va demander ou quand on va commencer à mutualiser les serveurs, etc., on va recréer des Orange. C'est pas vrai parce qu'il y a des associations comme je crois que c'est la FDN, Benjamin Bayard, etc., qui au tout début des FAI, eux ont créé des FAI non-profit où t'installais ton routeur chez toi, t'installais ta propre connexion et tu passais pas par les réseaux des grandes FAI. Donc ça existe, tu vois.
Non, mais il y a autre contre-exemple. Au début des FAI,
tu reçois la télé.
Comment ça s'appelle ?
Je regarde pas la télé.
Il y a Gandhi qui s'est créé, association, en disant, nous, le nom de domaine, on va casser les prix, on va faire en sorte que ce soit prix coûtant. Et à un moment, ils avaient je sais pas combien de millions en poche, ils ont dit, oh, on va créer une petite SAS. Et ils sont bien fightés, et maintenant, c'est une SAS
comme
qui fait des profits.
404.
Et ben oui, mais je veux dire, à un moment, on est dans une société capitaliste et on est à la merci de tout retournement de veste. Voilà.
Ok, donc l'argent gagne. Non. Cool, bah, trop bien.
Il a toujours gagné vis-à-vis de l'histoire. Hein.
Non, mais je comprends pas. Toi, tu serais le mec qui voudrait un internet propre et tu dis bah non, c'est pas.
La seule fois où l'argent a pas gagné.
Les grands groupes font ça mieux.
La seule fois où l'argent a pas gagné, c'est quand Ben Laden, qui avait de l'argent aux États-Unis, il a dit je m'en OSEF, j'envoie deux avions dans les tours, tu vois, c'est tout.
N'importe quoi, tu dis n'importe quoi.
Non, mais c'est vrai. C'est le jour où il y a un mec qui a des tas d'argent et dit bon, je m'en fous, je préfère faire péter les trucs.
Du coup, tu dis faut être terroriste et genre. Allons-y, quoi.
Ouh, bah, les raccourcis. Alors là, on a tout, là.
Bah non, mais il dit la seule fois où ça a marché, c'était Ben Laden.
Je sais plus où on en est sur le circuit du LOL. En fait, il y a trop de raccourcis. Hein,
le raccourci est grossier de la part de Mélissa. Ah mais les extrêmes gauches te diront, dans un monde ultra-capitaliste, effectivement, la rébellion est la seule façon d'avoir un monde égalitaire.
C'est quand même hyper triste parce qu'on est tous d'accord sur le fait que culturellement, les gens ne sont pas avertis de cette chose-là. Et nous, on a un rôle en tant que studio 404 avec nos 15 000 écoutes par mois, d'ouvrir ses consciences. Et Fibre, il arrive, il dit non, l'argent, des avions dans les tours.
Mais arrêtez, vous avez compris mon raisonnement?
Non.
Moi, je l'ai compris.
Dernière question sur ce débat. On parlait de l'effort que ça demande. C'est un effort noble et qui serait totalement justifié, mais qui n'est pas un effort. qu'est-ce qui se passe le jour où justement ce n'est plus un effort, le jour où justement des solutions qui étaient galères, par exemple avant acheter de la bonne bouffe, c'était galère. Aujourd'hui, il y a des systèmes comme je sais pas la ruche qui dit oui ou des petits maraîchers, des choses comme ça un peu novateurs et pratiques qui rentrent dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe le jour où on nous offre une solution pour un web propre et décentralisé décrit par Sylvain, ouais, mais qui est simple, qui est genre effectivement il y a ce boîtier. Tu sais que de toute façon, ce boîtier, il est neutre parce qu'il a été scanné par, je sais pas, 20 milliards de forums et de mecs qui font que ce boîtier, voilà. Tu le poses, basta.
Et, bah, tout
et,
le
ça
monde...
coûte, et ça coûte comme un Raspberry Pi, ça coûte 40 euros, par
tout
exemple.
Tout le monde basculera. Ouais.
D'accord, donc c'est possible.
De la même manière que tout le monde s'est mis au webmail quand, quand Google a proposé.
Donc
une
le
solution,
problème, en fait, c'est juste la flemme des gens. Donc l'idée, bah,
évidemment, qu'il doit passer au-delà. Ça a toujours été ça, que c'est la flemme.
Mais,
le,
pas, mais je suis
le
tellement pas d'accord. Je suis pas d'accord avec
ça. C'est vrai, Fibre, t'es pas d'accord.
La plupart des gens qui passent sur Internet, c'est pour avoir des séries gratos, parce que c'est moins cher sur Amazon. C'est-à-dire, c'est des trucs qui améliorent un petit peu leur vie.
Mais justement, Fibre, ce qui a marché, le piratage a marché parce que c'était simple. Et Netflix marche parce que c'est simple. Encore une fois, si on arrive à avoir quelque chose.
C'est le bon exemple.
Si on arrive à trouver quelque chose de simple pour les gens, ils payent ou ils payent pas. Mais le plus important, c'est que ce soit simple.
Mais attends, ce que je veux dire, c'est que votre la cause idéologique que vous voulez défendre avec votre système, tout le monde s'en branle parce que, regardez, il y a eu Adopi qui est arrivé, qui a envoyé des recommandés qui faisaient peur aux gens, et les gens ils téléchargeaient
non,
quand
non,
même.
Non, non, il y a plein de gens qui ont reçu une lettre et qui ont arrêté de télécharger du jour au lendemain.
Non, mais là où Fibre a aussi raison, c'est que les chiffres montrent que les jeunes générations, par exemple, pour elles, le deal de donner ses informations, sa vie privée, etc., c'est pas un problème pour eux. Et qu'effectivement, c'est plus un problème d'une génération plus ancienne qui est habituée à avoir une vie privée et qui maintenant est en train de basculer d'un modèle à un autre. Ça veut dire que...
Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais ça reviendra aussi. C'est-à-dire que
cette génération va avoir un moment une sorte de...
Bah oui, ils vont avoir un réveil qui va être dur parce que ça sera certainement suite à un gros drame, un truc vraiment, vraiment glauque, où d'un seul coup, ils vont prendre conscience de trucs que la génération d'avant a peut-être déjà, elle, intégré. Que bah sur Internet, faut quand même faire gaffe à ce que tu laisses comme trace par rapport à ta vie privée.
Et donc ça va arriver, c'est sûr. Donc des termes comme la décentralisation, etc.
Il faudrait réellement que ça soit un truc qui soit facile à mettre en œuvre et qui coûte pas cher.
D'accord.
À la Netflix, voilà. Okay.
Excusez-moi, qui sera illégal, puisqu'aujourd'hui la loi prévoit que si vous faites votre propre FAI, il faut mettre une boîte noire du gouvernement qui surveille vos allées et venues sur Internet.
On ne dit pas que tu vas le faire toi-même, on dit que quelqu'un va inventer un truc, une solution facile.
Ah ok, là, il va apparaître magiquement.
Bah Netflix, ça apparaît magiquement. Excusez-moi. Non mais je veux dire, ça va apparaître. Enfin, c'est groupe Google est apparu, Netflix est apparu, et ça peut être une autre
solution. Ça arrivera, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose à en tirer. Il faudrait que ça soit bien d'être vertueux.
La loi oblige que vous ayez une putain de boîte noire qui vous surveille de toute façon, donc que vous êtes baisé.
J'ai l'impression qu'il va finir par et la loi, c'est moi. C'est vraiment le.
Mais attendez, cette putain de loi qui surveille, qui a été votée il y a un an, tout le monde disait sur Twitter.
La loi
est-ce que je suis seul à être au courant de ça?
La loi renseignement, non, j'ai écrit une chronique dessus.
Et bah voilà, et bah alors. Et vous êtes là à proposer des serveurs décentralisés, la vie.
Oui, mais la loi s'adapte, rien n'est figé dans le marbre.
Oui, la loi s'adapte, d'accord. Elle va toujours dans ce sens-là, le sens de la liberté.
Mais attends, Adopi.
Bah regarde Adopi. Hein.
C'est fini, quoi.
Voilà. Non, Adopi, c'est pas terminé du tout.
Tu vois bien, ils envoient plus de courrier. Enfin, je veux dire,
non, mais arrêtez de dire n'importe quoi.
Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Mais c'est toi qui dis n'importe quoi.
Adopi, alors attendez, il faut qu'on informe nos auditeurs. Adopi, il y a eu un amendement qui a été voté peut-être pour l'arrêter en 2025. Mais
2022.
Et
tout le monde voilà, sait mieux bon. Que Fibre, en fait.
Ok, vous savez mieux que moi. Et alors, est-ce que cet amendement est passé, vous qui saviez mieux que moi?
Non, il n'est pas passé.
Et ben alors. Elle est encore là.
Oui, mais il n'y a plus de courrier.
On s'arrêtera là-dessus. Mais ça, c'est bien. On continuera ce débat sur le forum. Du coup, Sylvain, on continue le débat sur le forum. Qu'est-ce qu'on propose aux auditeurs? De nous proposer des solutions?
Ouais, pour avoir un vrai web décentralisé.
Raspberry Pi du décentralisation.
Pour démocratiser en fait cette réflexion auprès de gens qui ne portent pas de Birkenstock, qui n'ont pas de barbe et de lunettes, tu sais, qui se teintent quand tu sors dehors. Ils étaient tous comme ça là-bas, j'y suis pas allé vraiment, mais j'ai vu des photos. Et ils sont tous comme ça, ils font peur en fait. C'est pas des gens normaux, tu vois. C'est ça le problème.
Très bien, on continuera sur le forum. On va commencer la première FAQ spéciale auditeur, puisque pour les chanceux qui étaient avec nous à notre première soirée qualité au Piol, on vous a posé des questions et voici vos réponses. Parmi l'une des premières questions qu'on vous a posées, classique, quelle émission aimeriez-vous voir produite par qualité SAS?
Non, je pense que j'aimerais bien faire une émission où j'ai pensé ce matin, où quand on se balade dans la rue, on va voir chez les gens. Et j'arrête quelqu'un et je dis « Bonjour, j'aimerais bien voir comment c'est chez vous ». Parce que la chose que je préfère dans la vie, c'est le soir quand je rentre de soirée, c'est de regarder chez les gens quand c'est allumé et de voir comment c'est chez eux. Ou pareil, j'habite dans un immeuble comme la plupart des gens, Et quand je monte les étages et que je vois la porte ouverte de chez mon voisin, j'aime bien regarder comment c'est chez lui. Ah, du coup, j'aimerais bien une émission où on va chez les gens et on regarde la déco, alors qu'on a tous les mêmes apparts, mais on n'a pas tous la même déco.
Bah, en plus de vos podcasts, j'aimerais bien des vidéos. Franchement, des vidéos, ça serait vraiment cool. Mais pas des vidéos en mode... vidéo de votre podcast, vraiment des vidéos que vous faites sur une avancée technologique ou bien peut-être encore dans le numérique, certes, mais vraiment sur un test d'un truc ou bien franchement, ça serait vraiment cool.
Studio 404, c'est beaucoup de société, mais du coup, comment la société gère le numérique et pas tant comment le numérique gère la société. Donc comment on représente tous ceux qui ne sont pas représentés, à savoir les gens qui ne sont pas des start-upers parisiens, par exemple. Donc comment on parle dans la société numérique des gens qui sont soit en banlieue, soit un peu dans la campagne,
les provinciaux. La campagne.
Mais les comment on parle de gens qui n'ont pas de lien avec le numérique, comment on fait plus parler d'eux, comment ils s'incluent là-dedans, et peut-être aller plus à la rencontre de gens qui ne sont pas de Paris.
C'est mieux, Studio 404, mais avec plus d'invités, peut-être, je pense.
Un podcast pour apprendre à élever des animaux étranges. Genre, mon rêve, c'est d'avoir un orang-outan comme meilleur ami. Et du coup, j'ai rêvé de ça cette nuit déjà. Et j'avais un orang-outan qui était mon meilleur pote. Et j'adorerais apprendre à élever un orang-outan.
Ça va être très banal, mais j'aimerais bien vraiment un podcast sur l'édition numérique native et tout ce qui est création numérique native. Boring. Parce qu'actuellement, on a un peu de mal à faire sortir tous ces genres de choses et à les distribuer tout bêtement. Et c'est pas très, forcément très drôle, mais ça serait intéressant, je pense.
Sinon, moi j'aimerais bien une émission vraiment pop culture. Je sais pas si ça existe vraiment parce que je suis pas hyper fort dans les bails de podcast et tout ça. Mais une émission pop culture à la, late show américain genre Conan, avec un mec qui a de l'humour et de la répartie et qui reçoit des invités en leur faisant faire des défis à la Jimmy Fallon et tout ça, j'aimerais
bien. Alors moi j'aimerais bien qu'il y ait un podcast sur les types qui pensent que la Terre est plate, parce que je trouve que ces types, ils sont complètement délirants et j'aimerais écouter leur podcast.
Ben moi je trouve que ce qui manque en tout cas dans le podcast en France, c'est des podcasts pour tout ce qui est soit consommation, mais pas high-tech en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ne sont pas sur high-tech, ou alors en tant que cuisinier amateur sur la cuisine. Ouais. Je trouve qu'on met pas de podcast sur la cuisine et je pense que ça manque en fait dans le podcast français.
Alors je sais pas si on a, mais j'aimerais bien un jour voir un podcast sur le game design, les mécanismes des jeux vidéo en eux-mêmes en fait. L'historique, comment ça fonctionne, enfin je sais pas comment bien l'expliquer, pardon, mais un podcast sur en fait les mécanismes du jeu vidéo, en fait, tout ce qui est du game design, de comment ça fonctionne, qui a découvert, enfin qui a lancé les premières idées de FPS, ce genre de choses. Je sais pas s'il y a de podcast là-dessus, mais j'aimerais bien voir ça en fait.
Un podcast sur les podcasts peut-être.
Peut-être un podcast sur le voyage que je ne trouve pas actuellement.
Peut-être une émission un peu fun, un peu comme Riviera détente, un peu plus.
Mais en mieux.
Une émission qui serait sympa, ce serait une petite émission sur la musique, parce que j'ai l'impression que vous avez des goûts assez éclectiques en musique. Je connais à peu près les goûts de Daz, parce qu'il aime bien parler de PNL, de rap, etc. Mais les trois autres goûts à toi, Mélissa, ceux de l'âme, ou ceux de Sylvain, même ceux de Fibre, on les connaît pas trop. Mais ce serait intéressant de savoir ce que vous écoutez et même de nous conseiller des choses, par exemple. Je pense que ce serait assez intéressant. Puis la musique que les gens écoutent en général, ça permet de connaître un peu leur personnalité aussi.
Quelque chose orienté sur la vulgarisation des jeux vidéo, pour le coup. J'ai l'impression que parmi les chroniqueurs, il y a un certain nombre de gros joueurs. Moi, je joue peu, mais j'aimerais qu'on me parle un peu plus de jeux vidéo.
Moi, j'aimerais bien des podcasts un peu plus transversaux et synthétiques.
Oula.
En mode, pas avoir à choisir entre un podcast de ciné, de bouquins, de pièces, de stand-up, mais avoir un truc avec deux noms, deux films, deux livres, où ça va vite, où c'est dit de manière fun. Et ouais, voilà, un truc un peu comme ça.
Peut-être plus vidéo, ça serait vraiment... une petite découverte parce que vous parlez beaucoup de l'actualité numérique autour des startups et tout ça, et peut-être une découverte de ce qui se passe réellement dans ces startups pour se mettre un peu à leur place et pour savoir ce qu'ils vivent au quotidien tous les jours, même s'ils ont fait un truc qui a vraiment buzzé aujourd'hui, et savoir comment eux ils le vivent.
J'aimerais bien vous mettre au défi de faire une chronique de football pour voir.
Un podcast sur la domotique. J'adore ça.
Tout simplement la VR.
Génial.
Ça fait 30-40 ans qu'on en parle dans les films, dans les livres, dans toute la pop culture. Et ça fait 4-5 ans qu'on commence à la voir arriver.
Et là, maintenant, le CES, tout ça, enfin, tout le monde part de VR. Mais est-ce qu'il y a un surplus de hype par rapport à la VR? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'on n'a pas les bons contenus pour? Est-ce qu'on n'a pas la bonne narration pour?
Et voilà.
Est-ce qu'on n'a pas les bonnes applications pour? Est-ce qu'on n'a pas les bons professionnels pour? Voilà. Pour moi, la VR, c'est vraiment un sujet vraiment super important en ce moment.
Une émission vidéo sur le rétro gaming.
Je verrais bien un truc qui allierait la cuisine et les nouvelles technologies, parce que c'est un peu ce qui vous...
Ce serait un podcast où Stephen King raconte tous ses bouquins, mais à sa façon. Moi, je serais fan, mais c'est parce que j'ai un problème d'addiction.
Ok, j'ai bien réfléchi, et en fait, moi, je m'en fous du thème du podcast. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont à l'intérieur, et du coup, je veux les gars qui racontent le mieux les histoires au monde. Du coup, je dirais un truc avec Jean Rochefort qui raconte des trucs.
Un podcast sur la musique, définitivement.
Mais il y en existe déjà.
Pas vraiment.
Ça, c'était la fin de soirée.
Il y a des problèmes
ça.
De droit d'auteur et il n'y a pas assez de leaders d'opinion ou de qui pourraient parler de la musique d'aujourd'hui. À part dans le hip-hop. Il n'y a que dans le hip-hop où il se passe des choses parce que ça fait longtemps qu'ils galèrent dans le hip-hop. Donc, ils sont organisés pour parler du hip-hop. Mais là, dans les nouvelles musiques qui se créent aujourd'hui, c'est très difficile de parler de ce qui se passe.
Une émission sur le porno.
Ouais. Peut-être un podcast sur les routines ou voilà. Ce que les gens font le matin comme routine. Enfin, genre, ça m'intéresserait, ouais.
On va ouvrir un blog.
Je suis à fond, moi, je suis à fond.
Il y a pas mal de suggestions, hein.
Ouais. Ouais.
Des thématiques qui reviennent quand même. On en parle très rapidement avant d'attaquer la deuxième chronique, mais j'entends jeux vidéo, j'entends cuisine, j'entends podcast vidéo, ouais. J'entends usage, j'entends
voyeurisme.
Voyeurisme. Ouais.
Football et sport.
Moi, je veux bien gérer le podcast voyage, si vous voulez.
Bon, en tout cas, on notera tout ça. Il y a beaucoup de bonnes idées. On verra. Allez, on attaque tout de suite la deuxième chronique. Et c'est Daz qui va nous parler de l'histoire tourmentée des contrôleurs de jeux.
Tourmenté.
Sujet numéro 2.
Les contrôleurs de jeux vidéo, ce petit village irréductible qui résiste au progrès.
En novembre 2013, à peu près à l'époque où mon permis perdait son dernier point, j'avais fait une chronique sur les gamers et leurs potentiels réactionnaires en voyant que la majorité des gros titres qui sortaient étaient surtout des licences déjà installées. En juin 2016, après l'E3, qui s'est terminé il n'y a pas très très longtemps, ce côté réac, enfin cette question du côté réactionnaire des gamers revient parce que le monde se prépare à la déferlante de la VR.
La VR,
mais moi je vais dire VR parce que voilà, donc pour la réalité virtuelle, hein, qui est voué à devenir le gimmick de l'ère 2015-2020 du gaming. Et qui dit nouveau gimmick dit nouveau contrôle, donc les réactionnaires vont ressortir. Car de tout temps, l'homme, surtout japonais, n'a eu de cesse de tenter de marquer le jeu vidéo de son empreinte. L'histoire du gaming, c'est d'abord le clavier, puis le joystick, puis la manette, qu'on va appeler pad pour des raisons de praticité. Et une myriade, après donc cette manette initiale, il y a une myriade de variations sur le même thème. Variations parce qu'il faut bien avouer que quand Nintendo est arrivé avec la croix directionnelle à gauche et les boutons d'action à droite, ça a fait l'unanimité.
Ouais.
Donc, premier projet et boum, un classique. Ça fait un point commun entre Nintendo et les rappeurs. 30 ans plus tard, on donne tous dans le rétro gaming, même quand on joue sur Xbox One, désolé pour vous, ou sur PS4. Nos pads sont toujours des évolutions de celui de la Famicom, la toute première, de Nintendo. Nos sticks arcade n'ont rien de plus que ce que leurs ancêtres proposaient il y a déjà 30 ans. Et pour les plus esthètes qui s'adonnent aux joies des simulateurs, un joystick ou un OTAS, ça reste fondamentalement rétro, même quand il s'agit de faire piou-piou dans l'espace. Mais alors que les pads évoluaient positivement, le joueur curieux est passé par moult concepts, mornés, plus fumeux les uns que les autres, qui ont tenté d'ouvrir une porte vers de nouveaux horizons alternatifs, porte vite refermée par le haut d'or collectif des gamers un peu réac. Au chapitre de ces essais, là je pense que je pars du principe que tout le monde l'a vu cet épisode.
Non.
Je sais pas de quoi on parle de toute façon.
Ouais, non plus.
Au chapitre de ces essais, citons Mattel et son fabuleux Power Glove, Atari et le pad de la Jaguar, voire la Jaguar en elle-même en fait,
ouais.
Ou encore le Negicon de Namco, c'était un pad PlayStation qui tournait au milieu, qu'on pouvait tordre au milieu.
Ouais.
Je pourrais parler du Virtual Boy aussi de Nintendo, mais manque de bol, pour le Virtual Boy, le pad était le seul truc qu'il fallait pas acheter, voilà, ouais. Tout le reste était nul. Plus près de nous, on va citer trois cas remarquables, il y a la Wiimote de Nintendo qui a inventé et invité le motion gaming dans nos salons, il y a le PlayStation Move de Sony qui a copié Nintendo parce que on sait jamais. Ça peut marcher. Et puis il y a Kinect de Microsoft qui était la voiture balai derrière les deux autres et puis qui a ramassé tout ce qu'il a pu pour faire pareil, mais sans faire pareil. Là-dessus donc arrive la réalité virtuelle. Sonner au bois, résonner trompette, et avec les casques débarquent les contrôleurs qui vont bien. L'expérience a quand même servi à quelque chose, puisque cette fois, chez Oculus, comme chez HTC, les manettes qu'on va utiliser pour la VR ressemblent furieusement à des pattes classiques qu'on aurait juste coupées au milieu, afin d'en avoir la moitié dans chaque main. Chez Sony, c'est encore plus fort, puisque le contrôleur officiel du PlayStation VR, qui sortira donc cet automne, bah c'est le PS Move de la PS3. Voilà, le truc qu'on trouve à 11 euros sur Amazon. Recycler les idées et le matériel, j'en avais pas rêvé, mais Sony l'a fait quand même, parce que voilà, Sony, ils sont comme ça. Donc, futur du gaming ou pas, le paradigme classique sera donc bel et bien de la partie. On aura toujours, sous chaque pouce, accès à un stick analogique, ou une croix directionnelle, ou un trackpad, si on est chez Steam, ainsi qu'à quelques boutons, tandis que nos index seront, eux, posés sur une gâchette prête à l'emploi.
Donc, rien ne change.
Rien ne change. Alors, évidemment, les manettes embarquent capteurs et gyroscopes pour permettre de les repérer en réalité virtuelle et d'évoluer dans l'espace, etc. Mais finalement, les inputs, eux, ils restent désespérément classiques. Et surprise, c'est justement ce côté classique qui garantira leur succès.
Marquez mes mots.
Parce que si les fabricants veulent s'imposer durablement sur ce marché, ils doivent d'abord composer avec les contraintes. Et dans le jeu vidéo, les contraintes, elles viennent pas des joueurs, en fait. Elles viennent des jeux.
Ah ouais.
Il suffit de voir l'aisance avec laquelle votre tata Jacqueline a enchaîné les strikes dans Wii Sport 15 minutes après avoir découvert une Wiimote pour s'en convaincre. L'être humain s'adapte à son environnement. C'est ce qui nous a permis de survivre depuis 200 000 ans, les gars. Le Power Glove, il a pas échoué parce qu'il était tout pourri. Il a échoué parce que les jeux basiques impliquaient d'avoir une croix directionnelle et des boutons sous le pouce pour réagir rapidement. Et que les positionner le long du bras droit, c'était pas la meilleure des idées, en fait.
C'est sûr.
Bon, ok, la reconnaissance des mouvements du Power Glove était quand même un peu pourrie. Bon, c'était 1991, donc c'est pas leur faute. La même critique peut être faite pour la Wiimote, du coup. Les gyroscopes étaient pas super précis et pour supporter la manette, les éditeurs étaient forcés d'adapter leurs titres. Ce que peu ont fait de manière convaincante, sortie des titres first party de Nintendo. En fin 2015, Valve a sorti le Steam Controller, supposé être le chaînon manquant pour réconcilier la souris et le pad sur PC. Il est programmable et peut donc s'adapter à toutes les configurations possibles. Problème, il n'a conservé qu'un seul stick analogique et a troqué le deuxième pour un trackpad.
Ouais.
Sans surprise, il a fait un bide. Alors là, tu vas me dire qu'ils en ont vendu 500 000. Mais
bon, ouais.
À l'échelle du monde, c'est que dalle. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont acheté s'en servent plus.
C'est vrai, j'ai vendu le mien.
Et voilà.
Ah merde, je voulais en acheter un. Moi.
Alors, quelle est la solution, en fait, pour essayer de faire progresser un peu le gaming? Nous, au studio 404, avec nos cœurs de gamers qui n'ont jamais su te dire je t'aime, on trouve le concept des contrôleurs orientés VR plutôt pas mal. Avoir la moitié d'un pad classique dans chaque main, c'est cool. Et ça peut même être cool quand on joue à un jeu standard sans casque sur la tête, en fait. Ouais. Ça fait 35 ans qu'on a le pad en main posé sur les cuisses, ou à hauteur du visage quand on tire un pénalty dans FIFA. Et il serait peut-être temps de bouger un peu ça, sans forcément devoir parler à sa console ou faire un salto arrière pour ouvrir un menu. Microsoft, si tu m'entends. Plus de boutons, ça serait pas un mal non plus, parce que la dictature des manettes 8 boutons, donc les 4 boutons disposés en losange et les 4 gâchettes, ça va bien 30 secondes, mais on a besoin d'un peu plus là. Pas de surface tactile, s'il vous plaît. Écoutez-moi, constructeur, les surfaces tactiles, c'est de la merde. Par contre, je dis pas non à un petit gyroscope qui me permette d'utiliser mon pad comme une souris. Et pas seulement avec le pouce sur un trackpad.
Gyroscope qui est présent.
Qui est donc dans le Steam Controller, mais que personne ne savait qu'il y en avait un. Même Steam n'était pas au courant. Enfin, Valve n'était pas au courant, c'est incroyable. Pas de bouton dédié au partage sur YouTube aussi, parce que non, vraiment, c'est pas la peine. Et moi, j'ai déjà trouvé un nom. Ça s'appellerait le Dual Block.
Le Dual Block.
Le Dual Block. Alors si, il faudrait quand même que donc les deux sections qu'on ait dans chaque main, on puisse les raccrocher ensemble, hein, donc qu'elles soient aimantées.
Ouais.
Ça sera encore mieux, histoire de pouvoir revenir au mode monobloc si l'aventure du demi-pad était
bon,
pas
gros,
si
tentante que ça. T'as un pad normal avec plus de boutons.
C'est ça. Non, parce que c'est bien sympa vos trucs de hippie saltimbanque de la VR, là, mais c'est marrant de défricher les nouveaux territoires et tout. Mais à la fin de la journée, c'est pas ça qui va mettre les achievements dans la marmite, hein, les gars.
Alors Daz... Tu défends une idée.
Une vision un peu classique, néo-classique. Ouais. Ouais.
C'est que le pad, en fait, le jeu vidéo a changé, beaucoup de choses ont changé en termes de game design, de progrès, etc. Mais que les inputs, la manière de contrôler le jeu vidéo, qui sont clavier, souris, manette de jeu, à très grande majorité, ça n'a pas changé depuis la naissance du jeu vidéo.
Ben on n'a pas fait mieux, en fait.
On n'a pas fait mieux. Donc c'est pas une limite, mais c'est parce que finalement on a atteint très vite, comme tu dis, le hit.
En fait, le truc, ça arrivait super vite parce que les premiers sticks. Enfin, tu prends le premier stick qui était vendu avec l'Atari 2600 par exemple.
C'est une croix de direction et un bouton.
C'était un stick en caoutchouc avec un bouton. Ouais. Il y avait, tu sais, des trucs multisports avec la manette où il y avait pas de retour au centre.
Ouais.
Voilà, t'avais les jog dial, donc les molettes à tourner à gauche ou à droite pour se déplacer sur l'écran.
Ouais.
Finalement, quand Nintendo ils sont arrivés avec la croix directionnelle et les deux boutons d'action.
C'est toujours ça. Quoi.
Ouais, c'était top quoi.
Et donc après on a eu effectivement comme tu dis des itérations avec des sticks analogiques mais voilà. Qui existaient déjà et en fait d'une certaine manière sur les joysticks de simulateur de vol.
Le stick analogique, si tu regardes par exemple le DualShock 4 de la PlayStation 4, bah c'est juste une évolution du DualShock 1 qui est sorti avec la première PlayStation quoi.
Ouais.
Enfin, donc pas tout de suite mais il est arrivé un peu après.
Donc ça n'a pas évolué. Fibre, toi qui es game designer et qui d'ailleurs édite des jeux sur un autre type d'interface qui sont des interfaces.
C'est vrai qu'on en a pas
purement
parlé,
tactile.
Oui. Ouais. Le tact.
Est-ce que tu penses que les contrôles de jeu sont figés et que c'est une fatalité? Est-ce que tu penses que c'est Ben Laden que...
Alors, je voudrais citer trois exemples de contrôleurs alternatifs.
Les trois points des Fibre.
Exotiques qui ont bien marché.
Ah d'accord.
Qui ont été oubliés. La guitare de Guitar Hero.
Oui, c'est... mais ça, tu joues qu'un seul jeu.
Ouais, mais
Guitar Hero, voilà.
Ça s'est vendu par millions, ça marchait nickel. Il y a même des gens qui finissent Dark Souls avec la guitare, tu vois. Non, mais preuve que
il y a même des gens, il doit y avoir un YouTube.
Ouais, mais s'il existe, c'est que ça existe quand même.
C'est que c'est toi le produit.
Ensuite, il y a eu la Wii Board, qui était quand même un gadget, mais qui s'est vendu par pelleté.
Le Wii Fit, c'est ça? Wii Fit Board, c'est ça?
Ouais, la Wii Fit Board. Okay, donc, okay. Qui était une sorte de balance, complètement improbable, mais ça a marché.
Le Wii Balance Board, ouais.
Et le troisième qu'on oublie souvent, c'est le Kinect.
Bah oui, mais pas oublié, Kinect, c'est de la merde.
Et le Kinect qui a le même défaut que le Dual Block, qui pour ça, je pense, je mettrai pas mes sous dessus. C'est que c'est fatigant.
Donc mettez-les.
Non, mais c'est.
La fibre tigre se trompe tout le temps.
Non, mais Molineux le disait conférence là, à Paris, c'est que c'est super Minority Report, tu bouges, ou alors tu bouges, tu donnes des coups de poing.
Non, mais attention.
Mais il faut reposer tes bras, moi. Si tu veux jouer deux heures, c'est fatigant.
Non, mais fibre tigre, je ne te dis pas qu'il faut tendre les bras dans l'espace pour jouer. Moi, je te dis juste que, en fait, la manette avec laquelle tu joues comme ça, tu peux juste l'avoir de chaque côté de ton corps et poser sur le canapé, en fait.
Donc c'est pas en deux. Mais les trois contrôleurs dont tu parles sont des contrôleurs. Alors, peut-être que Daz l'a pas spécifié dans sa chronique, mais ce sont des contrôleurs, c'est des histoires d'une nuit quasiment, c'est des histoires d'un jeu,
ça.
C'est des one night.
Moi, je parle de trucs qui
Guitar Hero, c'était une nuit qui a duré 5 ans. Hein.
Non, mais c'est toujours le même type de jeu, c'est ça que
Guitar
je veux
Hero.
Dire.
Ouais. Mais alors, je voudrais aller dans cette remarque et aller plus loin dans la réflexion de Daz, qui est que on a eu des jeux qui marchaient avec la souris, quelque chose qui a été inventé vraiment il y a très très longtemps par Xerox,
bien sûr,
qui a été après plagié par Apple, on en parlera.
Non, on n'en parlera pas.
Et ça marchait bien. Et tout d'un coup, dans les années 90, il y a eu un jeu qui s'appelait Quake, on se souvient pas, qui a inventé une disposition qui s'appelle le ZQSD. Il y a un podcast qui s'appelle En hommage à ça, ZQSD. Le ZQSD est souris. Et là, il y a une transcendance de l'outil qui était déjà ultra performant. C'est devenu aujourd'hui un standard absolu. Et c'est devenu d'un outil performant, d'un outil indispensable, extraordinaire.
Donc là, tu rejoins Daz en disant que ce qui a été inventé dès le début, 30 ans plus tard, ça reste le moyen le plus pertinent de jouer aux jeux vidéo?
Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu as le meilleur device du monde, le meilleur contrôleur du monde, tu n'as fait que 50% du chemin. Parce que après, il y a toute une ingénierie de l'intégration.
Ouais,
et il y a même des détournements. Il y a eu même des jeux de rôle de type RPG au tour par tour qui sont été faits avec la guitare et qui marchaient très très bien d'ailleurs. On peut prendre un support et dire, bon, je vais faire quoi avec? Et je vais citer un contre-exemple. Il y a un device qui s'appelle le Mio, donc M-I-Y-O, que vous mettez autour du bras et qui réagit à votre muscle. Vous faites comme ça, enfin, vous bougez, vous faites des rotations du bras, des préhensions, voilà. Et vous avez des personnages qui bougent et qui font des choses à l'écran. Le problème, c'est que les implémentations sont nulles, quoi. Tu regardes, tous les jeux sont nuls. Donc, du coup, le device va pas marcher.
Donc là, t'es d'accord avec Daz?
C'est qu'en fait,
c'est qu'il y a aussi une dictature du jeu qui impose un certain type de contrôle, finalement.
Voilà. Il y a 50% de la réflexion de Daz se fait, en fait, hors device. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Voilà.
D'accord.
Et c'est ce que j'ai dit en fait.
Avec le Mio, il y a des mecs qui contrôlent des drones et ça c'est vachement classe.
Ah ouais?
Parce que t'as l'impression qu'ils sont fauconniers, les mecs. Ils ont le bracelet autour du truc et puis ils mettent le bras en avant et le drone il fait.
Cela dit, j'ai testé un Mio hier et je peux te dire que ça marche pas très bien.
Je sais que ça marche pas très bien. Moi je suis un peu surpris par ta chronique d'Az.
Pourquoi donc, mon ami?
Parce que la VR, c'est la réalité virtuelle. La VR, c'est la réalité virtuelle. Mm-hmm. Donc, en fait, on met un casque sur sa tête pour simuler une réalité, n'est-ce pas? Pourquoi, alors, à ce moment-là, le contrôleur, c'est pas nos mains?
Parce que, non, les contrôleurs qu'on utilise, ça émule nos mains, en fait. C'est juste qu'en fait, dans un jeu, t'es jamais à main nue.
Mais pourquoi, alors, le pad parfait, le contrôleur parfait, ce serait pas un petit anneau au bout de chaque phalange qui fait exister les mains dans la réalité virtuelle?
Ben parce que c'est tout à fait faisable, mais qu'il va falloir raquer, je
Alors,
pense.
Si tu me permets,
ça sera peut-être ce qu'on aura dans 10 ans.
Si tu me permets, Sylvain, il y a un device qui s'appelle le Leap Motion. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, bien sûr.
Voilà, ben c'est un peu ce que tu te demandes, pour informer nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le Leap Motion. Un petit rectangle que vous posez sur la
ça
table.
Ça coûte 70 euros.
Voilà, ça ne sert à que dalle.
Vous mettez vos mains au-dessus, qui flottent au-dessus du device, et vous avez vos mains qui apparaissent magiquement dans votre interface.
Si elle prend l'accessoire en compte, évidemment.
Et d'ailleurs, maintenant, on peut le mettre sur la face de l'Oculus, du casque de réalité virtuelle, pour faire apparaître les mains.
Et pas besoin de...
J'ai pas essayé encore.
Alors, le problème du Leap Motion, c'est que ouais, du coup, il faut l'embarquer tout le temps avec toi, parce que la VR telle qu'elle arrive là, c'est... Enfin, avec le Vive, par exemple, tu te déplaces dans l'espace, donc t'es pas devant ton bureau.
Oui,
donc,
ça c'est la théorie.
Si tu la colles sur ton casque, le Leap Motion, tu le colles sur ton casque.
Ouais, mais le l'angle de... Parce que si tu regardes tes mains tout le temps, t'es plus dans ton délire, hein, tu vois.
Mais c'est comme dans la vraie vie, en fait.
Ah, c'est-à-dire que dans la vraie vie, j'ai un truc qui me permet de visualiser mes mains.
Tes yeux, ouais. C'est tes yeux
quand je les regarde pas. Non mais ton truc marche pas.
Non mais si je vois ce que tu veux dire et je.
Il faut que ce soit un angle.
Et je me suis trompé. Bah oui, je m'excuse.
Ah voilà.
Okay. Non, tu as raison.
Tu as raison.
Par exemple, il y a des jeux. Il y a des jeux qui font en sorte que le Leap Motion bloqué sur le front, couplé avec l'Oculus, fonctionne. Ce sont des jeux où justement tu dois te pencher sur des cartes tactiques et tu bouges avec tes mains. Et comme tu es penché sur une table avec tes mains, voilà, c'est
avec deux devices collés au front et lombaires en flamme.
C'est méga relou.
Bah évidemment, c'est relou.
J'ai une question pour Mélissa qui, du coup, parce que Mélissa est censée être, est toujours la personne qui ne joue pas trop aux jeux vidéo. Et c'est intéressant parce qu'on a longtemps dit, notamment avec le succès de la Wii et de l'iPhone, qu'on avait enfin trouvé des manières de jouer aux jeux vidéo qui étaient justement pas complexes et pas intimidantes pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo.
Les casus.
Mais n'empêche,
je suis casu et je l'assume.
Mais oui, mais voilà, mais qui ont révolutionné le jeu vidéo. Daz, d'une certaine manière, demande les mêmes choses en plus complexes. Parce que en gros, tu demandes un pad avec plus de boutons qui peut se séparer en deux. Donc en gros, voilà.
C'est complexe.
Si c'est pas cassé, faut pas le réparer. Hein.
Est-ce que toi, Mélissa, est-ce que c'est un truc, c'est une des choses qui t'a toujours un peu aussi empêcher de jouer aux jeux vidéo, c'est devant un contrôleur avec deux sticks analogiques, une croix de direction, 10 boutons.
Faut apprendre quel bouton, parce que donc, j'ai quand même joué aux jeux vidéo, fut un temps, malgré moi. Et donc j'apprenais les boutons, je m'en souvenais jamais. Je suis désolée.
Oui, c'est le fameux genre appuie sur rond et en fait,
tu es en train de regarder où est rond. Sur n'importe quoi.
D'accord.
Ce qui parfois me faisait gagner, mais rarement. Et je vois en fait qu'en 20 ans ça n'a pas évolué.
Donc
c'est
dire
intéressant.
Mais moi
je pense que en fait j'aimerais bien qu'il n'y ait plus rien quoi.
D'accord.
Que je puisse jouer genre avec une lentille ou un truc comme ça.
Mais donc tout ce qui était un peu Kinect et ce type d'interface ou Motion Leap, c'est ça? Magic Leap?
Leap Motion.
Mais les trucs,
ces interfaces où effectivement tu as une abstraction du contrôleur, pour toi c'est un truc qui t'inviterait plus à jouer au jeu?
Bah oui, à un moment j'ai envisagé et après je me suis dit non, parce qu'il n'y a que 3 jeux où ça va être intéressant pour moi, donc voilà, j'allais pas investir dans une console pour ça.
C'est le problème en fait.
Donc faut juste inventer le truc où il y a tout.
Ouais.
Et où le device soit minimal.
Mais moi, je suis assez d'accord avec Mélissa sur la complexité des contrôleurs. Quoi. Ouais. Moi, c'est un gros frein sur Elite, ça. Ouais. Sur Elite Dangerous.
Alors que t'es quand même un joueur qui joue depuis longtemps.
Mais j'ai du mal à le relancer parce qu'à chaque fois, c'est putain, où est-ce que j'ai mappé les trains d'atterrissage, quoi.
Ouais.
Il y a 25 boutons sur mon truc là.
Mais ouais, mais mec, ça c'est comme dans un vrai avion. Si le pilote il vole tous les jours, au bout d'un moment il se pose plus la question. Moi, c'est comme un vélo ce truc là.
Une question se pose sur les contrôleurs asymétriques avec croix directionnelle à gauche, c'est. Les pauvres gauchers, malheureusement, ils ont peut-être souffert de cette...
Alors, la Wiimote était ambidextre.
Oui, la Wiimote était ambidextre. Mais il y a certains jeux qui proposent, d'ailleurs, puisque le contrôleur de la Xbox One, par exemple, est un peu symétrique, qui permettent le switch entre les deux contrôleurs.
Et d'ailleurs, c'est souvent, je crois que c'est inversé avec le clavier souris, puisque le...
Oui.
Mais, non, souris, mais pour la plupart des jeux, on va dire qu'il y a quand même la suprématie des droitiers l'emporte.
Mais je
ne
sais pas pourquoi, parce qu'en fait, personne n'a dit que... Quand je joue avec sur un PC, je me déplace avec la souris, je tourne la tête avec la souris, etc. C'est dans ma main droite. Alors que quand je suis sur une console, c'est dans ma main gauche. Moi, je m'en fous de gaucher et droitier.
Ouais,
va sur un
PC où il y a un gaucher qui vient de travailler, tu verras la souris, elle est à gauche déjà.
Donc c'est les gauchers qui font chier, on est d'accord.
La tolérance a changé de camp.
Non, c'est bien, tu rejoins les deux dans la boucle des raccourcis. Là, vous êtes sur votre circuit parallèle, là, c'est bien.
Non, mais sache que justement, Sega avait sorti avec pour la Master System un stick arcade avec le stick à droite et les deux boutons à gauche. C'était n'importe quoi.
Pour les droitiers.
Bah pour tout le monde, parce qu'un stick arcade, le stick est dans ta main gauche et les boutons dans ta main droite, je veux dire.
Et donc juste pour fermer du coup sur ce débat, Daz est pour garder ce qui a toujours fonctionné, et le complexifier, enfin le sophistiquer, bah, on va
oui,
dire.
L'améliorer, mais pas le disrupter.
Mélissa aimerait bien une grosse disruption pour avoir quelque chose de plus, inclusive, de plus ouvert sur tous les gens.
Mais ça, on l'a vu. Enfin, le truc de Mélissa, on l'a vu. Enfin, Kinect, on a vu ce que ça a donné. C'est des jeux au gameplay un peu merdique. Ouais. C'est un système qui reste branché toute la journée et qui t'écoute dans ton salon, même quand t'es pas en train de jouer à la console. Mais ça, c'est
oui,
Microsoft.
Ça, c'est autre chose encore.
Voilà. C'est un système qui vérifie que quand tu loues un film sur la plateforme, vous êtes pas plus de 3 à regarder, sinon il part du principe que c'est une diffusion publique et il coupe le film.
Putain, non, mais
c'est incroyable.
Là, tu fais du off-road. Là, c'est plus
du raccourci.
C'est
l'outil.
Non, mais donc, comme pour le premier débat, on pourrait. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui va le faire un jour. Ou ça se passe comment? Ou genre, vous allez dire, bah non, on va non, garder en fait, notre.
C'est vrai, mais ça a raison. On se retrouve un peu sur le premier
trucs,
débat.
Nos vieux trucs de il y a 20 ans.
Est-ce que c'est une question de flemme de l'usager à un moment aussi?
Mais non, mais en fait,
la techno,
quand ils l'ont évoqué, quand ils ont dit Kinect permettra de détecter chacun de vos doigts individuellement, même dans la pénombre, etc., etc., c'était super intéressant. C'est juste que bah, ça marche pas, quoi.
Bah,
et que les gens ils ont besoin en fait quand tu joues t'as besoin d'un retour haptique.
Il y a besoin de ce qu'on appelle la killer app, c'est-à-dire l'application qui va faire en sorte qui va transcender le device et qui va faire que tout le monde va l'acheter. Et d'ailleurs c'est la problématique de base aujourd'hui de la VR, c'est-à-dire que il y a les casques, ça fait envie à tout le monde, mais il y a pas l'application qui fait que on doit acheter le casque parce que cette application on en a besoin.
Il y a pas le Wii Sport de la VR.
Voilà.
Et Elite Dangerous.
Oui, je pense pas que ça va attirer beaucoup de grand public.
Mais c'est parce que les gens sont idiots.
Le Wii Sport à Elite Dangerous, ça c'est du raccourci.
Très bien. On verra en tout cas. Qu'est-ce qu'on propose aux gens sur le forum pour discuter de cette chronique?
Quel serait pour vous le contrôleur idéal, sur console et sur PC, un truc qui réconcilie un peu les deux mondes, quoi.
Mais qui serait qui partirait sur une autre piste ou qui serait complètement le même.
Soit une évolution de ce qui existe, soit carrément un truc qu'on n'a jamais vu. Et
ok, on fera un petit sondage en tout cas.
Voilà, décrivez-le, donnez les specs qu'on puisse éventuellement le proposer.
Très bien, et surtout faites des gros raccourcis. Elle en attaque tout de suite la deuxième FAQ.
FAQ.
Deuxième FAQ, les gens commencent à être un petit peu alcoolisés dans la soirée. Donc
vous avez l'air déjà bien attaqué sur la première.
Je pense qu'on était bien chaud toute la soirée. Notre deuxième FAQ, c'est une FAQ en mode un peu elevator pitch, c'est ça comme ça qu'on dit.
Tout à fait.
Vous avez quelques secondes pour nous pitcher une start-up qui nous donnerait envie de vous donner 1 million d'euros en premier tour de table, en série A de fonds.
Série A.
Alors qu'est-ce que les auditeurs nous ont proposé comme start-up pour lever 1 million d'euros? On les écoute tout de suite.
Le nom, ce serait la Pio Léo, les Pio Léo. Et le concept, ce serait...
On va avoir du Léo, là.
On va avoir du Léo.
De réunir le plus grand nombre de photographes à un seul endroit précis. Et...
Ça pitch en temps réel, là.
Le pitch est streamé, là.
Et il y aurait des jeux vidéo.
Ça coûte 1 million d'euros, ça ?
1 million d'euros. Mais c'est pour les appareils photo. Ouais.
Oh là là.
Et ça ferait de la revente de cartes, enfin ça ferait plein de reventes en fait, c'est un petit endroit où on fait du troc et des choses comme ça.
On fait le web 2008.
Et on boirait de la Suze aussi. Ça c'est un concept, c'est un vrai concept. Non mais c'est génial parce qu'apparemment les barman ils avaient jamais servi de la Suze. Et du coup ils m'ont mis une triple Suze parce qu'ils savaient pas du tout la servir pour le prix d'une Suze. Un million d'euros, il y a un concept.
Ok. Alors, je suis ingénieur du son pour des groupes de musique et je tourne souvent en province et je pense qu'il faudrait une sorte de...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Yelp. Pour les lieux où les musiciens jouent. C'est-à-dire qu'on pourrait noter le fait qu'ils nous ont bien accueillis, si la sono était bien, et ça permettrait à tous les groupes de savoir les endroits cool dans toute la France pour pouvoir aller jouer.
Marcher, ça
serait une sorte de réseau social pour les groupes de musique et les lieux qui accueillent des groupes de musique.
Je fais une entreprise qui met en relation les animaux avec leurs futurs propriétaires.
Ouais.
Un truc associatif avec genre la SPA qui met en place des profils Facebook sur leurs animaux et qui doivent draguer en fait des gens sur Tinder.
Oula.
En fait, on a un concept génial. On va permettre aux mecs de louer leur meuf de louer leur copine, leur copain, pour pas cher. C'est un peu le Uber de la baise en fait, tout simplement, tu vois. C'est, et je pense qu'on l'appellerait Baiseo.
C'est plutôt le Airbnb de la baise.
Qui marche top. Comme Tip of My Tongue sur Reddit, sauf qu'elle a toutes les réponses et tu peux lui dire n'importe quoi, genre
ouais, tu sais cette chanson qui fait genre nan nan nan, et elle te fait ouais, c'est celle-là, et tu fais oui, merci l'appli. Et on l'appellerait genre bout de la langue.
Oui. Alors c'est une idée de mon frère Max Mammouth qui est formidable, et il avait une idée, il voulait faire cette start-up et il l'a pas faite. En gros, ça s'appelle Bullshit Express et c'est un prestataire de service. T'es en retard, t'es dans la merde, t'as trompé ton mec ou ta meuf, t'as une galère. Tu appelles Bullshit Express et tu dis les gars, tu leur pitches la situation et ils te trouvent en 10 minutes une solution pour que tu puisses faire un bon mytho qui marche vraiment bien.
J'ai créé une société avec Monsieur Hervo sur la nuit debout. On a appelé, en fait, on est une commission avec Hervo. On s'est appelé la grosse commission et il y a moyen de se faire énormément de pognon. Tout ça avec le caca des gens qui est étalé sur la place de la République tous les jours.
Une application qui te permettra de combiner ton besoin alimentaire, tes meilleures recettes et ce qu'il y a dans ton frigo.
Alors, donc on fait une start-up sur les vins rosés. Ça s'appelle Vinéo Roséo. Donc, le but, en fait, c'est l'ubérisation du vin rosé, tout simplement.
C'est quoi l'ubérisation du vin rosé?
L'ubérisation du vin rosé, c'est-à-dire que n'importe quel particulier peut produire du vin rosé pour l'amener directement chez vous. Et oui, et on a besoin d'un million d'euros.
C'est du livre jeu illustré en numérique natif. Et vraiment faire du livre interactif. Et le faire vraiment beau et faire du livre-jeu comme il devrait être fait en 2015. Alors que pas un portage de ce qu'on a fait il y a 20 ans, mais
il y a un an.
Vraiment avancer l'ergonomie en 2015.
Je sais pas, peut-être une plateforme qui mettrait en relation des scénaristes et des dessinateurs pour faire de la bande dessinée.
Ah, c'est pas mal.
En fait, ça serait une start-up pour quand tu vas dans un magasin et que t'as pas de quoi t'acheter un truc. Que tu, au lieu de le prendre en photo et te dire bah ouais je le prends en photo comme ça je me rappelle, en fait ça te tag l'objet que tu veux et comme ça après t'as des offres promotionnelles dès que t'en as envie.
Ah ouais,
Amazon, la conciergerie sur Facebook.
C'est quoi, vas-y développe.
C'est genre par exemple t'as besoin de tout, genre une pizza, un hôtel ou un billet de train et tu demandes ça sur le chat Facebook.
En fait, je suis en train d'organiser, enfin de créer avec un pote, donc on est vraiment dans les premières étapes, un projet pour préparer son voyage autour du monde et qui permet d'organiser et centraliser toutes les informations. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu organises un truc avec tes potes, tu galères et on essaie de simplifier tout ce truc-là pour voyager. Voilà. Là, vraiment, le plus mauvais elevator speech du monde, mais... sinon, au pire, non, j'allais dire c'est la bite, mais c'est chaud. Quoi.
J'ai une idée de faire un truc pour plus que les gens fassent leur lessive. Ce serait des t-shirts qui seraient numérotés au nom du jour auquel on est. Ça, on doit jamais faire ça. On fait sa lessive une fois par an.
Ça existe avec
ça vaut pas un million de dollars, ça. Non.
Avec un million, je résous tous les problèmes de transport en France.
J'hésite entre donner de l'argent à des grosses entreprises comme Nintendo ou Square Enix pour qu'ils se sortent un peu les doigts du cul. Ils n'hésitent pas à innover en fait plutôt que de se reposer sur des acquis qu'ils ont depuis des années et qui devient un peu barbant à la longue.
Un truc avec les mamans, ça marche bien en ce moment, un truc avec les mamans.
Milféo.
À base de beaucoup d'Instagram, avec des concours et des poussettes à gagner.
C'est un blog, quoi. C'est un blog.
Un million d'euros de
poussettes. Un
million d'euros.
Ça marche bien.
C'est quand tu surfaces par un million d'euros.
Je pense que là, on est à une ère où, mine de rien, les devices nous permettent maintenant d'avoir autant de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, ainsi que des retours haptiques qui peuvent être assez intéressants. Alors, il y a déjà des trucs qui existent.
J'ai pas compris.
Mais je pense que tu vois, sous version en public, ça peut être sympa.
Je sais très bien que ça marche pas quand tu lances ta boîte. Alors du coup, je lui dirais n'investis pas tes 1 million dans une boîte en France. C'est la merde.
On veut soigner les gens avec du caca.
Ah bah c'est bien, ça dérape.
Mais encore. Dans le caca, il y a énormément de bactéries. Des choses qui poussent dans ton corps. Dans toutes ces choses-là, il y a énormément de choses qu'on ne sait quasiment pas étudier, mais qui pourrait certainement t'aider à, enfin, aider les gens malades à être en meilleure santé grâce au caca des gens qui sont en bonne santé.
Il y a des biohackers qui font ça.
Une start-up qui envoie du fromage par la poste, mais sous chronopost en vrai. Parce qu'en fait, tu commandes ton fromage et il arrive en moins d'une heure. Donc, tu as le fromage que tu veux en moins d'une heure et il y a une option saucisson pour avoir le saucisson que tu veux avec.
Je vais créer une nouvelle start-up qui va révolutionner votre avenir à propos des toilettes. Donc je vais avoir besoin de beaucoup d'audience et beaucoup d'appréciation. Donc en gros, les toilettes, c'est un truc qui nous convient tous les jours, qu'on utilise tous les jours, mais on s'en sert pas assez au maximum. Et donc là, je propose vraiment que les toilettes deviennent une part, vraiment une part entière de ce qu'on vit tous les jours. Et qu'à chaque fois qu'on y aille, on ressente le besoin d'optimiser notre journée
et qu'on rentabilise chaque instant aux toilettes pour que, au lieu que, pardonnez-moi l'expression, mais que ça nous fasse chier, que justement, on travaille et qu'on on optimise le développement de notre entreprise.
Oh, le fétichiste. Ok, alors, je pense qu'en tech, on est vraiment très, 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 très avancé. Et je pense qu'il nous manque de l'interface. Donc, je pense qu'il faudrait une boîte qui arrive à tout faciliter. C'est-à-dire qu'absolument tous les trucs qu'on fait qui sont hyper difficiles, je suis sûr que c'est hyper facile à simplifier pour qu'avec trois trucs, tu puisses faire quelque chose de hyper compliqué.
J'ai rien compris.
Putain, c'est hyper drôle.
Bon, alors, débrief.
Grosse thématique caca quand même. Hein.
Grosse thématique caca.
Ouais, quand même pas mal.
On sent que tous les gens qui n'ont pas d'idée, ils finissent par donnez-moi un million quand même à chaque fois. Toutes les fins de pitch, genre, on fera un truc avec du fromage et on ubérise, donnez-moi un million.
L'ubérisation du vin rosé, je trouve ça pas mal. Ouais.
Vino roséo ?
Ouais, c'est pas mal.
C'est très beau, vino roséo. On dirait une petite ville italienne. Ouais. C'est très, très mignon.
Je chiale de rire, c'est génial.
Il y en a eu deux, trois qui étaient pas mal.
Ouais.
Mais il y a deux, trois qui
étaient. Il y a deux, trois. On avait envie d'investir, on les voulait.
Par exemple, les interfaces de retour haptique en vire.
Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris ça.
C'est un pâte qui vibre.
Parce que, voilà, quoi.
C'est un pâte qui vibre.
C'est le pitch. Bon, ben voilà.
En tout cas, il y avait de la belle idée. Il y avait vraiment de la très, très belle idée.
Il y avait beaucoup d'alcool aussi. Hein.
Oui, ouais, je pense qu'il y avait beaucoup d'alcool.
Et
je pense
que... Des start-up.
Voilà, des start-up. Et je pense que d'un point de vue dérapage des raccourcis, on a les auditeurs qu'on mérite. Hein. On a vraiment des auditeurs à la hauteur de nos chroniqueurs. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique avec Mélissa.
Sujet numéro 3.
Ça n'a duré que deux jours, mais j'ai enfin lâché Internet.
Previously on Studio 404.
Dans un monde où Internet va vite, Mélissa avait vu sa façon de connecter changer dramatiquement en un an. En 2015, elle embrassait Internet, elle ne voyait pas l'importance d'une digital detox. Sur les déconnexionnistes, il y a un an, elle disait « Mais en fait, vouloir s'en défaire à tout prix, absolument, complètement, c'est juste débile. » Enfin, c'est vraiment, c'est comme vouloir s'extraire de la société, ne plus parler avec. Enfin, pour moi, ça semble être la même chose, quoi. C'est genre, je vais être autiste. Voilà, on rigole, hein, comme ça. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un peu d'action, de film d'action, de bande-annonce de film d'action. Merci Daz pour ton intro. Mais je suis toujours sur la même chronique hein, depuis le début de Studio 404.
Et je
continue donc voilà un nouvel épisode de Mélissa sur Internet. Donc un an plus tard cette chronique sur les déconnexionnistes où je disais que c'était des gros cons. Il a fallu se rendre à l'évidence parce que j'aime toujours Internet, hein, ça reste ma vie. Vous inquiétez pas, j'ai pas changé. Mais j'ai frôlé la situation où j'allais dire Internet, j'en ai marre. Et c'était pas seulement après un tweet de Daz. Il y a eu un moment en fait, j'ai eu besoin de faire l'autiste, précisément parce qu'en fait, ce que je critiquais il y a un an, hein, donc quand tout le monde en fait offrait ou faisait des cures il y a 3 ans, vous savez, ce grand moment où tout le monde dit non, mais ça, Internet, ça peut être dangereux. Enfin, c'était votre mère et je sais pas qui, mais ouais. Pas grand monde ici. Mais en tout cas, moi, je disais non, mais attendez, on s'en fout, on n'a pas besoin. Internet, c'était pas très intense pour moi il y a 3 ans, j'y vivais, c'était parfait, j'adorais ça. Et en fait, aujourd'hui, après 10 ans d'Internet hardcore, j'avais besoin de souffler.
Hardcore,
Internet. Bref. Comment en est-on arrivé là, ma bonne dame? Eh ben, vous le savez déjà, hein. Mes journées, je vous les ai déjà racontées 45 fois dans Studio 404. Comment je vais sur ma boîte mail à 7 heures du matin? Comment je vais sur Twitter? Mais pas encore sur le Snapchat de Fibre, parce que ça, c'est vraiment trop dur à 8 heures du matin. après, j'arrive au bureau, et là, je passe toute ma journée sur Internet, et après, je continue encore le soir, et puis après, il y a les Slacks de 404 à minuit 32 et à 4 h 39 parce que Daz est encore connecté. Bref. Et un jour, je me suis dit, oh putain.
Il fait des notifs, il fait des ad groupes à 4 heures du matin, cette fois.
J'ai rendu ma chronique. Ah bah ouais, t'es bien en retard.
Merci.
Mais tout ça résume un grand truc que nous avons tous ici, le fear of missing out, le FOMO.
FOMO.
Dont je suis atteinte aussi, mais jusque-là, je le vivais assez bien. En gros, on peut dire que si je comptais mes heures sur Internet, clairement, je fais beaucoup d'heures sup. Mais j'aime ça, comme tout cadre sup qui adore son travail. Donc entre 2007, date à laquelle j'ai vraiment commencé à être sur Internet, blâmez-moi, et aujourd'hui, tout a changé. Et moi aussi, j'ai changé. Donc j'ai pas lu toutes les études hein, sur l'attachement qu'on a à notre portable, à Internet, et ce que ça fait à notre cerveau, parce qu'en fait elles disent tout et son contraire. J'ai juste ressenti un besoin, il fallait que je fasse une pause. Mon corps m'a dit, si tu te retrouves encore une fois à ne pas savoir ce que tu voulais faire là, quand tu as changé d'onglet et que tu scotches depuis 10 minutes, je débranche ton cerveau. Vous avez tous vécu ce moment.
Oh oui.
Même les textos, en fait, j'en avais trop. Je recevais des textos, j'avais envie de jeter mon iPhone. J'étais genre, mais arrêtez de me parler, vraiment. Et puis, en plus, il y a l'actu, hein, parce qu'il y a des primanges, des attentats à Bruxelles, à Istanbul, partout dans le monde. Et puis, il y avait Roland Garros qui se passait sous la pluie, ce qui est un peu mon drame personnel.
Tout à la fois, quoi.
tout, la météo, tout. Bref, j'en pouvais plus. Je recevais des notifs, des messages, des trucs de l'âme, des trucs de fibre, des trucs de... Enfin, vous, tout. J'en pouvais plus.
Même nous.
Même vous, j'en pouvais plus.
Surtout nous, je dirais.
JPP de nous.
JPP de vous. Bienvenue donc dans un nouvel épisode de Queen of Connect. Mélissa en avait marre des hoax, des vidéos de chats, de la triste actualité, du trolling de Daz. Elle était en overdose d'internet. Elle avait bien vu les cures pour arrêter, mais pas nous pour un sou, elle décidait simplement de passer en mode avion. Brendan essayait de la consoler, mais il était trop occupé à prendre soin de son irréputation. Alors Mélissa s'est retrouvée seule à nouveau face à son device. Heureusement, Kevin allait lui proposer de partir en week-end. Et là, elle tenta ce qu'elle avait toujours renoncé de faire. Parce qu'elle trouvait ça un peu what the fuck. Elle allait se déconnecter et passer en mode avion. Elle vit à quel point la vie pouvait être calme et paisible.
Alors, c'est Fibre qui fait les voix derrière.
C'est quoi ce cœur moyenâgeux ?
C'est Tomb Raider. Mais ses amis autour d'elle, dans cette maison au bord de la mer, étaient rivés à leur téléphone au petit déjeuner. Elle ouvrit un livre et sentit qu'elle était plus forte qu'eux. Elle ne touchait plus sa poche frénétiquement par peur d'avoir perdu son téléphone. Elle réfléchissait, elle s'oubliait. Ses amis étaient sur Snapchat, se taguaient sur Instagram et Facebook. Il fallait que leurs vacances aient l'air belles. Mais elle, le dimanche matin, elle ne pouvait pas cacher à Kevin qu'elle aurait bien voulu savoir s'il ne s'était rien passé dans la nuit sur Internet. Mais tout allait bien, elle profitait de sa journée, ça passait plus lentement, elle pouvait tranquillement regarder le soleil et réfléchir. Elle avait l'impression de gagner du temps, de revenir à des choses simples. Elle oublia son portable en allant à la plage, ne le prit pas non plus pour aller en boîte. La vie s'est calmée deux jours, puis Queen of Connect est revenue à la réalité.
J'ai une photo de Fibre avec une harpe en train de faire les voix derrière.
Entièrement nu.
C'est la musique de Tomb Raider, les mecs. Et donc, au bout de deux jours, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je m'étais un peu déshabituée à mon téléphone, mais il y a eu le dur retour à la réalité.
Bon, là, elle dure, on va dire.
Voilà.
Un genre.
Ça a été vraiment très compliqué quand j'ai enlevé le mode avion. Donc, je m'étais donné une deadline qui était le dimanche à 22h. Je l'avais passé le vendredi à 22h. J'ai vraiment, au début, je regardais un peu les minutes, genre vers 21h, je me disais, est-ce que, machin. Et en fait, je l'ai activé à 23h, en fait. J'étais en train de discuter dans les embouteillages pour revenir du week-end avec quelqu'un de Adidas qui me parlait de sneakers. Bref.
Très bonne personne.
J'étais à la fois donc stressée et excitée, parce que je me disais, ok, je vais avoir plein de nouvelles de tout le monde, ça va être cool, et je vais retrouver Internet, ça va être un peu cool quand même. J'ai eu plein de messages. Et j'étais un peu stressée, mais en fait, ça m'a pris 15 minutes de répondre aux gens avec qui je devais vraiment discuter. Les autres, s'en foutaient. Mais le plus flippant, en fait, c'est Facebook. Parce que...
Ah ouais, pourquoi Facebook ?
Facebook m'avait envoyé 5 mails en me disant « Mélissa, vous avez 8 notifications, 2 messages et 3 pokes. » Puis le dimanche matin, « Mélissa, vous avez 10 notifications, 3 messages et 4 pokes. » Non mais c'était scandaleux.
Mais où est-ce que t'es, bordel ?
Plus ça allait et plus le temps se rapprochait entre les messages. C'est des tarés, quoi.
Ah ouais, d'accord.
Bref, moi je me connectais, plus j'avais de messages. Donc là, on voit les sites désespérés qui veulent surtout que vous reveniez sur leur site tous les jours. On se dit « Putain, Facebook, ils ont vraiment besoin de ça. » Ce qui était aussi un peu chiant, c'est les textos répétés des potes qui sont pas habitués à ce qu'on réponde pas dans les deux heures. Ça, c'est vraiment, vraiment très dur. Ou la meilleure amie qui dit le lundi, mais t'as pas vu ce que j'ai fait de mon week-end sur Instagram? Non, j'ai pas vu du coup.
Ah ouais, ce point-là.
Ouais, et là, on se rend compte de. Voilà, de ça, c'est notre vie. Les gens sont habitués à ce qu'on soit là, dispo, connecté. Et donc, en fait, là, je suis juste retournée en 2008, mais j'avais l'impression d'être retournée 50 ans avant. Et en fait. Je l'ai bien vécu parce que...
Ah, donc tu l'as bien vécu.
Je l'ai très bien vécu parce que c'était pas grave, en fait. J'ai rien manqué. Enfin, après, si j'avais eu... Ça avait été le 13 novembre, je pense que là, ça aurait été un peu plus grave, oui. Clairement. Mais j'avais quand même juste prévenu mes boss au cas où, parce que bon, je leur ai dit, je suis pas là, je suis vraiment, vraiment pas là. Ils m'ont dit, ok, t'as le droit de pas être là pendant 48 heures. Si j'avais fait ça pendant une semaine, c'est les vacances, hein, mais ça, j'ai décidé que je le ferais pas pendant les vacances.
D'accord.
Bref, ce que j'ai appris, c'est que je tenais plus mon portable, je consultais moins mon portable et que je l'avais pas dit à mes potes et c'était très bien parce que comme ça ils sont habitués à ce que je réponde moins en deux heures parce qu'ils étaient habitués à ça. Et surtout j'étais contente de revenir sur Internet. J'avais perdu le truc pour lequel j'étais partie. Enfin, j'ai retrouvé le truc pour lequel j'étais partie. C'est-à-dire que j'avais envie de retourner. Et j'avais envie d'y retourner, mais intelligemment, pas juste en étant frénétiquement sur les réseaux, en ouvrant les mêmes trucs. Parce que mine de rien, ne pas activer les mêmes applis chaque jour sur votre smartphone ou sur votre site, enfin sur Internet avec vos favoris, mine de rien, vous perdez presque le réflexe.
C'est ouais. vraiment, vous le savez, vous, vous avez des réflexes avec votre pouce sur votre téléphone. Et ben, j'avais pas perdu ça. Et genre, le lundi matin, genre, j'ai oublié de sortir mon portable quand j'étais au boulot. Genre, je l'ai sorti de mon sac à 13h. Ce qui m'était, oh, je pense, jamais arrivé, ah. tu vois.
Oh là 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 là.
Et donc, j'ai décidé loin. Que ce genre de cure, j'aimais beaucoup. Et que, en fait, c'était possible. Et que donc, j'avais été peut-être un peu limitée quand j'avais dit l'année dernière que c'était pour les cons ou les autistes. Parce qu'en fait, ça m'a.
Attention,
ça
me... avec l'autisme, Mélissa.
Hein, oui, pardon.
Avec les Mongoliens, tout va bien.
Bah, ils ne comprennent pas. Hein.
Non, mais. Oh, non, mais c'est un happy end de Queen of Connect parce que, si tu veux, ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Donc, je vous propose pour le prochain épisode de Queen of Connect, je vous raconterai mon test de 3 cures que j'aurais mis en place. La cure Ramadan.
Oh là.
Point d'internet le soir pendant un mois. La journée, c'était clairement pas possible avec mon travail.
Donc, c'est un Ramadan,
donc, c'est un Ramadan à l'envers. Okay.
Ou la cure Fridayware. Donc là, je m'oblige à commencer à enlever les notifications le vendredi pour me défaire de mon téléphone pendant le week-end.
Pas mal.
Où je passerai progressivement en mode avion.
Je vous rappelle que Fibre fait de la flûte traversière dans le fond. Là.
Et de la harpe.
Et la dernière cure, la cure Pas belle en maillot. Une semaine sans réseaux sociaux pendant mes vacances à la plage, mais avec le reste de l'internet donc.
Ah, mais pas de réseaux sociaux.
Mais juste pas de réseaux sociaux, comme ça les gens ne voient pas que je suis belle en maillot en vacances. Tu vois.
Ah, d'accord.
Voilà.
Mais toi,
donc,
trois formules. Genre, on a envie que tu les testes en tout cas.
Rendez-vous dans le prochain épisode de Queen of Connect.
Et là, t'as le compte à rebours vers le prochain épisode de Si tu changes pas, Netflix te fait binge-watcher la suite de Queen of Connect. Quelle belle série!
Ouais, franchement, je l'aime beaucoup. Bah, c'est pour ça que je l'ai fait un peu depuis 4 ans sur le 404, vous savez.
Que de rebondissements. Alors, du coup, tu es revenu sur tes pas. C'est tu ça. As admis ta faute et tu t'es dit que. Alors, le mot est toujours aussi dégueulasse, dit digital oui. détox, mais qu'en tout cas.
À petite dose, en fait.
Faire de la slow food, du slow internet, des choses comme ça, ça marche.
Parce que ce que je disais, pas dans cette chronique-là, mais dans une chronique en 2013,
c'était
je crois.
C'était la saison 1, épisode 3.
Voilà. Ce que je disais, c'était. Ouais, mais en fait, c'est tellement compliqué. De tout arrêter pendant les vacances, donc d'enlever les applis, ouais. De défaire les notifs, de machin et tout, que je voulais pas me prendre la tête pour ça. Genre, alors qu'en fait, je pouvais tout passer en mode avion, parce que je voulais garder le téléphone à l'époque.
Donc on en revient, en fait, t'avais la flemme.
Et j'avais la flemme.
C'était une solution simple qui était le mode avion.
Et là, le mode avion, mais le truc, c'est que ça t'enlève vraiment, genre, s'il y a une urgence, tu le sais pas, quoi, vraiment.
C'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup de et s'il y a une urgence.
On s'en fout.
On s'en fout. Est-ce que, alors, du coup, cher chroniqueur, alors, évidemment, Fibre a levé la main et il m'a fait déjà un signe 3 pour dire j'ai 3 points.
2, apparemment.
Ah, plus, non, 3. 3, 3, 3 et 3 points. Qu'est-ce que vous pensez de ce revirement de situation dans notre série Netflix Queen of Connect et qu'elle a enfin trouvé l'intérêt de raviver sa flamme par Internet en créant
du manque. Dans les starting blocks, putain.
Il a posé sa harpe, il a enlevé sa toge et c'est bon.
Sa feuille de vigne. Vas-y,
sa feuille de vigne et il veut parler.
Non, mais d'abord une illumination.
Oui.
C'est-à-dire qu'à Slate, en fait, c'est un groupe de psychothérapie professionnelle. Et il y en a une, c'est
elle
les pattes.
Burn-out.
L'autre, c'est une maman qui a des problèmes. Et elle, c'est la connexion. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on va voir ça. Il y en a un autre, c'est Game of Thrones. Voilà. Et Mélissa, en fait, elle a ce problème de la connexion.
On parle donc de quelqu'un qui fait des Snapchat toute la journée et qui dit non, mais là, j'en peux plus, je fais des burn-out.
À travers ses Snapchat. Chroniques, en fait, elle se dit la connexion de ça. Bon, écoute, c'est très intéressant. Bon, bref. Donc, sinon. Moi, je fais des petites mini cures de déconnexion, c'est-à-dire que
de 2-3 secondes.
Non. Disons que
des fois, je cligne de l'œil.
Parfois, je cligne de l'œil. Ça fait beaucoup de bien.
Non. De la même façon que j'essaie désespérément de réguler ma bouffe, j'ai un peu ralenti ma connexion, c'est-à-dire que j'ai supprimé les notifs.
Ah d'accord.
Voilà, donc je vis sans notifs.
Je pense qu'on va en parler parce que c'est vrai que c'est un des
points. Voilà, c'est
importants.
Un peu le moyen de vivre allégé, mais difficilement. Sinon, il y a un truc qui marche très bien avec moi, c'est l'argent. C'est-à-dire que quand je suis dans un pays étranger et qu'il faut payer pour la bande passante, c'est sûr que je regarderai pas. Voilà. Et également un autre système, c'est longtemps j'ai eu un téléphone un peu pourri et je voulais pas m'en acheter un mieux. Et du coup, tu peux pas avoir un million d'applis qui marchent bien dessus. Et ça, c'est un bon moyen. Souvent, les pauvres, malheureusement, sont moins connectés.
Là, t'as un téléphone de la génération.
Ouais. C'est que pour Snap.
Donc, en fait, t'es riche et t'es malheureux, en fait, c'est ça?
Non, ça va. Moi, je vis bien. J'ai pas de psychothérapie sur ce point-là à faire. Et
aussi.
Mon troisième point.
Tu te rends pas compte, tu sais. C'est là que c'est le pire.
J'ai pas de problème.
Aucun problème.
Ça fait un quart d'heure, j'ai pas fermé l'œil, mais j'ai.
Mon troisième point. c'est que je trouvais pas trop l'intérêt de la déconnexion, mais quand je me déconnecte, oui. je trouve que le monde est vraiment très chiant. Voilà, il est beaucoup moins dense que le monde avec l'internet, si tu veux, parce que avec l'internet, on a beaucoup de tweets, beaucoup d'infos, on peut cliquer
sur des articles. Est moins dense, ouais.
On a toujours un œil sur la réalité qui se passe, et tout d'un coup, quand on enlève cette phase, on est obligé de regarder autour de nous. Ben, c'est ouais, c'est un peu moche, quoi. Voilà. Ça se passe pas grand-chose.
Ok, très bien. Donc, est-ce que quelqu'un a un avis sur...
Oui.
Oui, alors Daz.
Alors, c'est dommage qu'on ne fasse pas un podcast filmé, parce que là, on ne voit pas hausser les sourcils devant cette chronique.
C'est vrai que tu as haussé les sourcils, hein, niveau, ouais. niveau Daenerys. Hein,
ouais, là, tu... niveau Calici. C'est... Comment dire ? Je comprends le point, si tu veux.
Attends, 2000 ça ou de fibre ?
Bah, des deux, du coup, parce d'accord. qu'il est finalement, avec son verbe, j'ai d'accord avec elle. Donc, oui. Mais en fait, vous me faites penser à des enfants qui s'empiffrent de chocolat et après ils ont mal au bide. Oui. Et moi, ces enfants-là, je leur mets une balayette en leur disant t'avais qu'à pas manger beaucoup de chocolat, en fait. Tu vois
ah, l'éducation par Daz,
ça doit être ah, ben bah, ouais, non, mais ça va être sec, mais attention. Non, mais parce que, en fait, c'est super
sa fille,
facile.
Elle doit saigner de la hanche.
Ouais, mais non, mais ma fille, justement, elle a pris deux balayettes, maintenant elle fait plus n'importe quoi, tu vois. Ou en tout cas, quand elle s'empiffre, bah, elle me le dit plus. Voilà. Non, mais en fait, c'est ce côté compulsif, tu vois. Genre, oui. il faut absolument rester connecté tout le temps, répondre dans la seconde au SMS, etc. Moi, là, hier, tu m'as parlé sur Slack, bah, j'étais oui. pas devant mon truc, je l'ai vu le lendemain matin, voilà.
Oui, c'est... j'ai vu ça, j'ai vu, hein.
Tu vois?
Mais j'ai vu que tu l'as vu que le lendemain matin.
Non, mais je veux dire, c'est
dommage que c'était pour la chronique pour aujourd'hui.
Bah, le résultat, on l'a fait, c'est pas le problème. Non, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que vous mettez une telle pression pour exister.
C'est pas exister. Moi, je partage le faux mot en tout cas. C'est pas forcément exister, mais d'un point de vue consommateur, j'ai beaucoup de mal à laisser passer quelque chose.
Non, mais t'es capable de donner des abacs sur le délai de réponse au texto que tes potes t'envoient. Je veux dire, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais même pas oui. si je réponds dans l'heure ou la demi-heure. Je m'en fous en fait.
Oui. Hein. C'est, mais toi, tu restes un rock de stabilité et de.
Mais non, mais c'est juste, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression d'être le seul type un peu sensé dans ce monde.
Et pas freelance.
C'est ce que ça, c'est la série de Daz. Ça, c'est la comédie de Daz. Toi, c'est le seul mec sensé de ce monde.
Je répondais pas au taquet. J'ai juste des potes qui pensent que faut répondre au taquet.
Ouais.
Mais genre... ces potes-là, moi, je te jure, ils m'envoient deux textos, ils comprennent que ça sert à rien.
Non, mais Daz, Mélissa, elle est journaliste. Non, mais nous, on est freelance. Je veux dire, répondre, ça a un autre impact, répondre à ce qui arrive sur notre téléphone.
Mais parce que moi, je travaille pas, peut-être.
J'en sais rien, mais t'es dans une cogip. C'est pas pareil.
Bah, plus, ouais, ça veut dire que moi, quand je sors du taf, je suis plus au taf. Donc les 800 oui, mais... mails que j'ai à lire, je les lirai sur mon temps où je suis payé pour le faire.
Voilà, on est d'accord.
Oui, mais toi, les journalistes. Ta cogip, c'est pas genre être au taquet en permanence et être sur Internet toute la journée.
C'est vrai
de fait, tu l'es.
C'est vrai que Mélissa, son job, c'est quand même.
Mon job, c'est ça. Genre, mon job la raison m'impose
de plus, raison de plus
d'être
pour
là à fond, quoi.
C'est-à-dire que tu peux encore plus facilement identifier ton job et faire en sorte de pas travailler quand t'es pas au travail.
Oui, mais après tu as l'argument actu qui dit genre et s'il se passe un truc.
Moi je me souviens que pendant l'émission Cyprien, elle regardait son téléphone pendant l'émission Cyprien et moi je l'ai observé parce que j'espionne tout ce qu'elle fait, je me méfie d'elle. Elle était en train de regarder un mail sur les Panama Papers.
La gratuité est totale.
Elle était en train de regarder un mail sur les Panama Papers et le truc, elle était faire le lendemain. Et je sais qu'elle était en stress total parce qu'il y avait un gros truc qui se passait demain et ça allait toucher toutes les rédactions. Donc je veux dire, quand tu es journaliste, quand t'es pas au boulot, t'es au boulot.
C'est vrai.
Sylvain, on t'a pas entendu à pas rigoler depuis tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses marrantes quand même.
Ce petit être traître. Non, moi, Mélissa, elle a avancé un argument qui a failli me convaincre pour la Digital Detox, c'est ouais. le retour à Internet. Ouais. Retrouver le plaisir de se retrouver.
Raviver la flamme du couple.
Ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui pourrait me convaincre. Mais moi, j'ai développé une capacité à faire fi du FOMO. Je suis un maître zen. Faire fi du FOMO. Ouais. C'est ma série à moi. Et je suis un maître scène de la notification et de parfois maintenant quand j'ouvre mes notifications sur Facebook, il y a certaines notifications sur lesquelles je ne clique pas.
Oh.
Et ouais, je le faisais déjà en fait.
Voilà. Et maintenant, j'avais fait une chronique sur les notifications qui oui. remplacent les applications,
oui.
où on peut interagir directement dans le panneau de notification d'Android.
Et c'est ce qui va être fait dans les prochaines versions d'iOS aussi.
Bah voilà. Et ben là, je suis sur Android N qui n'a pas encore de nom, Android Nigger.
Attention,
c'est les internautes qui ont proposé, tu sais.
Ah oui, mais j'espère qu'ils sont noirs.
Et donc je suis sur la bêta là, parce que j'ai un Nexus. Et juste pour dire ça. Je voulais juste le dire, c'est tout. J'ai pas d'autres choses à dire. Non, si, on interagit directement dans les notifications. Et ça, c'est génial. J'ouvre plus les applis et du coup, je vois plus ce qui se passe dans les
D'accord.
applis.
Donc
j'interagis juste avec les notifs.
Ça met à toi de couper un peu dans le gras, quoi.
Voilà, c'est ça.
Alors, un point intéressant que Mélissa a soulevé dans sa chronique, c'est que. Ce qui lui a aussi permis de réaliser peut-être ce qu'elle était en train de faire et comment les gens vivaient, c'est qu'elle était quand même avec des gens qui, eux, sont aussi des obsédés du net, des applications, des notifs.
Il faut changer d'amis.
Et est-ce que,
Est-ce que, du coup, mais ça, je veux bien que tu reviennes dessus et peut-être que vous allez rebondir. Est-ce que ça t'a quand même beaucoup aidé de voir d'autres personnes dans ce cas-là pour comprendre un peu où t'en étais toi, en fait? Ou si tu l'avais fait seul, t'étais parti seul et t'avais coupé un téléphone, ça aurait été moins efficace que de voir que t'étais la seule personne, justement, au milieu de plein d'amis à ne pas être sur des réseaux sociaux toute la journée. Tu t'es dit, mais en fait, c'est peut-être un peu ridicule à voir de l'extérieur vu comme ça.
Non, mais là, tu vois, en fait, à quel point, en fait, le téléphone est aussi devenu l'endroit où se passent les choses. C'est-à-dire qu'il y avait des discussions entières autour d'une photo postée sur Facebook.
D'accord.
Donc moi, je ne voyais pas.
Ouais.
Et ces gens n'étaient pas journalistes. Donc ce n'est pas des gens qui sont au taquet particulièrement, qui sont plutôt en train de checker l'actu. C'est juste des gens qui étaient en vacances, lambda, qui ont des boulots, qui n'ont rien à voir et machin. Mais qui, de fait, le téléphone est là. Et donc, ça fait partie des divertissements dans le week-end.
D'accord.
Donc, c'est des moments qui se passent autour de ça. Et tu vois, en fait, à quel point c'est devenu des moments.
Est-ce que, du coup, tu te rendais compte, hein, est-ce que tu arrivais plus facilement à les juger, à te juger, de te dire, OK, là, je suis la personne qui n'a pas de téléphone, donc je suis en retrait par rapport à ce groupe, et je vois ces gens, donc je me vois aussi. Est-ce que ça t'a aidé à réaliser plus vite, en fait
Après, tu vois des gens devant des téléphones, ça nous est tous arrivé dans des soirées où tout le monde, tout d'un coup, il y a 5 personnes devant un téléphone et une personne qui n'a pas de téléphone, et là, tu fais, waouh, ouais. Et ben, j'étais dans cette situation-là, mais pendant deux jours de suite, quoi.
Ouais.
Et là, tu te rends compte que oui, les gens sont attachés, et dès qu'il y a la lumière qui pop sur leur téléphone, ils sont là, genre. Tu vois.
C'est fou,
ça. Non, mais c'est bien de
partir. Et c'était pas des notifs d'actu, c'était juste genre un appel, un coup de fil, un machin.
C'est bien
tout le monde est fébrile, ouais. Quoi. C'est fou.
T'es accro à l'héroïne et puis tu pars en vacances avec des addicts aussi à l'héroïne, c'est super pratique.
Non, mais même, tu partis en vacances avec un groupe, tout le monde, quand il y a un truc qui buzz sur la table, les téléphones sont généralement pas loin.
Ouais.
Et tout le monde est genre, tu vois. Et il y avait une discussion, et là,
Mais toi, c'était chiant parce que toute ta vie, elle est.
Alors que tu pars quand même avec des gens qui ont des téléphones.
Non, mais c'est même pas ça, parce que tu vois, chez moi, par exemple, je suis tout le temps avec mon téléphone, c'est juste que je suis pas en train de regarder les réseaux sociaux ou quoi. C'est par exemple, je lis.
Oui.
Je lis que sur mon smartphone ou ma tablette.
Ouais.
Donc j'ai toujours le téléphone à la main, sauf que quand je suis en train de lire, je lis, quoi. Je vais pas sur Twitter.
Je dis pas qu'il faut plus avoir de téléphone.
Mais non, mais parce qu'on a l'impression que, genre, arrêter de vouloir absolument le prendre, enfin, c'est ça qu'il faut que vous repreniez le contrôle sur votre téléphone, les gars, quoi. C'est ça que je trouve.
C'est juste que je fais ça.
Dase le grand frère, reprends le contrôle sur ta vie.
Mais ouais, deviens esthéticienne. Non, mais c'est chaud, enfin.
Dase le grand frère.
J'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver à se mettre dans ce mindset-là, c'est-à-dire un asservissement total à la notice.
Je l'étais, et c'était la première chronique de la première émission de 404. On parlait déjà de phone stacking, donc de s'obliger à mettre des téléphones hors de portée.
Enfin, perso, je sais pas. Moi,
vous savez que sur Android, parce que je sais pas si je vous ai dit, j'ai un téléphone sur Android.
J'ai accès.
C'est un Nexus, non ?
C'est un Nexus. Quand tu sais, il y a une fonction qui existe qui s'appelle notification importante uniquement. Et du coup, ça n'affiche pas, donc ça vibre pas, ça sonne pas, et ça n'affiche pas les notifications de Twitter, Facebook, etc.
C'est important sur Twitter.
Ça t'envoie juste les SMS, tu vois.
Tu l'as configuré ou pas ?
Il te propose un truc par défaut.
D'accord.
Et tu peux le configurer en disant, je veux même pas les appels, sauf l'appel de cette personne, par exemple.
D'accord. Bah oui, c'est le mode.
Et là, t'arrives à un truc assez
cool. La même chose.
Parce que ce que je disais quand je critiquais les collectionnistes.
Pas la même chose. Si, on a la même chose.
Ça prenait du temps si tu voulais faire un truc parfait qui te dérange pas, quoi.
Moi, les notifs, j'ai peut-être 70 applications sur mon téléphone.
Non, moi, j'adore, mais en vrai, c'est relou.
D'ailleurs, personne ne le fait. On en parlait en off tout à l'heure, c'est que Twitter, si vous désactivez toutes les notifs, mais que vous avez un très, 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 très gros compte qui vous like, qui vous retweet, vous avez quand même une petite notif, tu vois, parce que Twitter, il considère que.
Parce que moi, j'avais coupé les notifs Twitter et j'avais rien du tout.
Parce que t'étais tellement importante qu'il n'y a plus d'ordre de grandeur au-dessus de toi.
Je pense pas.
Il t'envoie un mail, mais c'est marrant le truc de Facebook d'ailleurs qui envoie des mails quand t'es parti trop longtemps.
Ah non, mais c'était horrible.
C'est fou, j'ai l'impression que c'est overly attached girlfriend, c'est la meuf qui fait t'es où
Non, mais parce que, en fait, le Facebook, je l'ai pas rouvert jusqu'au lundi matin.
En fait, c'est peut-être la NSA qui dit
t'es où. Non, mais du coup, j'en ai eu un le samedi soir, un le dimanche midi, un dimanche soir, un deuxième le dimanche soir, un le lundi matin, une heure après lundi matin.
C'est affreux. Enfin, moi, j'ai coupé toutes formes de mails là-dessus, mais je trouvais ça affreux, quoi.
Moi, j'ai pas coupé, je les lis pas. Donc, ils vont arrêter de m'en.
Oui, donc tu les reçois quand même. Mais c'est vrai qu'après, régler toutes les notifs et régler, je sais pas comment dire, avoir une alimentation internet équilibrée, c'est quand même long et fastidieux. Sur le téléphone, il faut, je sais pas, sur Android, tu vas nous dire, Sylvain.
Bien sûr.
Mais sur iOS, chaque application à la main, toutes les notifs sont on de base. Ça veut dire que quand on commence à les régler, on doit faire pour chaque notif, ok, tu peux apparaître pas dans la homepage, mais en haut de l'écran, nanana, et on pousse 300 boutons poussoirs, c'est une galère de fou quand même.
Eh bien, ce qui est génial, c'est que sur Android, c'est la même chose. Pareil.
Mais j'ai accès en bêta.
En fait, je pense qu'il faut aussi accepter à un moment donné de, tu vois, par exemple, les gens qui disent, j'essaie de lire tous les mails que j'ai dans ma boîte mail, moi je m'en branle.
J'en ai 800 noms.
En fait, toi, c'est ta technique, c'est que tu t'en branles, en fait.
Bah, en fait, je m'en fous, ouais. Donc, non, mais du coup, en fait, il n'y a pas de challenge à dire, ah, dès qu'il y a une notif, il faut que j'ai rien sur mon écran d'accueil et tout, je m'en fous. Moi, je peux avoir 5 jours de backlog.
Ça, c'est
de
les
notifs,
mecs qui sont encore sur Gmail, on est triste pour vous.
Non, je suis sur Inbox, moi, j'étais avant toi, en fait. J'ai même dit de venir, mais t'avais peur à l'époque. C'est pas grave.
D'accord, moi, je suis sur Inbox, mais je suis dans la secte des gens qui ont un soleil merveilleux.
C'est parce que vous mettez des challenges qui, en fait, fondamentalement, servent à que dalle, même pour vous. C'est-à-dire que toi, tu lis tous tes mails, si, perso.
Le bonheur que tu connaîtras jamais, j'ai une sérénité, je vois ce soleil.
Mais tu sais comment moi je le fais, ce bonheur-là, en fait, je fais afficher mails non lus, je les prends tous, et puis je les déplace dans à lire. Et voilà.
Ah, mais ça doit être tellement dur de faire du business avec toi, le mec, il répond jamais aux mails.
Tu peux pas, moi je réponds pas aux mails.
C'est ça, une forme de digital detox, c'est la procrastination, finalement.
Ouais. Non, c'est pas de la procrastination, c'est remettre le message à sa place, en fait.
C'est-à-dire dans la poubelle.
Si jamais c'est grave, tu m'appelles.
Non, il les met pas dans la poubelle, il les met dans à lire, c'est pire.
Mais à déplier, enfin, tu vois.
Qui est à lire, c'est une poubelle polie, quoi. Voilà. C'est vraiment une poubelle polie.
C'est genre, c'est pas vraiment là.
Dernière chose, on avait en projet de faire un pique-nique déconnecté. À chaque fois que j'en ai parlé à des gens, ils ont dit, ce serait génial. Et au bout d'un quart d'heure, c'est, mais qu'est-ce qui se passe si vraiment quelqu'un doit m'appeler ou qu'il y a quelque chose? Donc, on se demande si, en fait, les gens le vivraient bien ou pas. Est-ce que si on faisait ce pique-nique qualité déconnecté, donc les gens laissent au vestiaire ou à l'entrée tout leur téléphone interdit d'avoir quelque chose pour photographier la bouffe, se faire des selfies, etc. Est-ce que vous le feriez ou pas?
Même un appareil photo normal qui communique pas?
À voir, mais globalement, pas d'outils technologiques et de communication, quoi. Un truc vraiment où on est obligé de se regarder dans les yeux.
Même pas le téléphone en mode avion dans la poche.
Non.
Comme au conseil des ministres, quoi. Une petite boîte et on met tous les téléphones.
Exactement, parce que pas de selfie, pas de, ah, c'est l'heure immortelle, je vais le prendre pour plus tard. Rien. Une journée entière.
Une journée.
Ah, une journée entière. C'est genre, ah, c'est génial. Ah non, ça dure pas le temps d'un dessert. Ah oui. Ah, ça dure plus de.
Moi, je dirais qu'il suffit juste que vous soyez chez Free pour vivre ça tout le temps. Voilà. Passez chez Free et vous capterez une fois toutes les 3 heures.
Hein? T'as même pas le téléphone?
Ah non, mais
tu captes rien.
Non, mais c'est pas que tu captes rien, c'est que tu laisses ton téléphone à l'entrée. Est-ce que vous feriez ce pique-nique avec nous?
Oui, moi, ça me dérange pas, moi.
Oui. Fibre?
Ouais.
Une demi-journée, oui.
On fait une pause à midi, quoi.
Ah bah non, la pause c'est le pique-nique.
C'est juste emmerdant pour la musique, en fait. Parce qu'en général c'est sur les téléphones.
Non mais on arrive à 10h, on part à 15h.
Ah non, 10h, 18h. Si, on commence pas à négocier.
Et après c'est moi qui ai un problème. Ouais. Hein,
10h, 18h sans votre téléphone.
Non mais c'est pas ça, mais c'est qu'on risque de se faire chier un peu.
Ouais,
non,
d'accord. On va faire des activités, il y aura d'autres.
Oui, il y aura d'autres activités, mais que vous ne pourrez pas immortaliser.
Mais il y aura
par
quoi, par exemple?
Mais moi j'avoue, quand
le jeu du ni oui ni non.
Quand
parce
que
c'est chiant.
Non, mais quand je suis éclaté une soirée, qu'on fait la fête, etc., je sors pas mon téléphone, moi, parce que je m'éclate.
Ouais, c'est beau.
Tu sors pas ton Android.
Tu sors ton téléphone quand tu te fais chier.
Ouais.
Okay. Intéressant comme baromètre.
Ouais, il y aura de quoi faire une chronique. En tout cas, on en parlera avec vous sur le forum. On attaque tout de suite la troisième et dernière FAQ spéciale piole.
FAQ.
Troisième et dernière FAQ de cette émission de juin, donc une FAQ spéciale les pioles, où nous avons tenu notre première soirée de qualité. Si vous avez entendu les deux premières, je pense que vous êtes impatients comme nous d'écouter la troisième, puisqu'on la découvre en même temps que vous. Ghislain l'a fraîchement mixée. Et en plus, la question est plutôt rigolote, puisqu'on vous a demandé de nous raconter ou de nous avouer quelque chose que vous avez récemment fait sur le net et dont vous avez particulièrement honte. Alors voilà, du stalking, du troll, un mensonge, du harcèlement, du porno boulot, tout ce que vous voulez. On écoute ce que vous avez à nous partager.
Il y a un truc, mais on ne voit pas ma tête. En gros, c'est moi, je suis habillé en pyjama japonais. Et on ne voit absolument pas ma tête. Tout le monde sait que c'est moi, mais je ne dirai jamais que c'est moi. Et vous ne trouverez jamais... cette image, si vous cherchez, n'essayez pas.
La dernière chose dont je me rappelle, c'est que je fais beaucoup de story Snapchat en ce moment, et notamment quand je bois un peu tout seul chez moi. Donc il est 23h, je me sens un peu seul, j'ai bu, et je commence ma story
SOS
Snapchat.
Détresse amitié.
Et je délivre du contenu et je mets des masques de clown, j'essaie de trouver des choses intéressantes à dire. En fait, je fais des Snapchats d'à peu près 10 minutes. Et en fait, le lendemain, quand je me réveille et que je les re-regarde, c'est là où j'ai vraiment honte.
Il faut soutien.
Je pense
soutien.
Que c'est une honte, en fait, du quotidien.
J'ai honte de vraiment rien. Effectivement, j'ai stocké une ex récemment. C'est peut-être le truc qui fout un peu la blaze. Je l'ai stocké en plus sur LinkedIn, ça craint vraiment.
Alors moi j'ai un problème, c'est que je fais très peu de stalking. Donc je peux pas trop parler de mes trucs de stalker. Mais j'ai un truc encore plus honteux, c'est que je lis la même nouvelle érotique depuis que j'ai, je sais pas, 16-17 ans,
je l'ai googlé.
Sur le même site pourri.
Je l'ai trouvé.
Et la nouvelle est même plus référencée. Donc
si, je l'ai trouvé. Attends, comment on te connaît pas? Est-ce que tu peux nous donner le nom de l'histoire, au moins, le titre?
C'est Fibre qui stalk.
Une affaire en or.
Une affaire en or. Et
c'est le truc, ça te chauffe bien, quoi.
Oh là là.
J'étais hyper déçue. En porno et en érotisme, j'ai même pas acheté de livres un peu littéraires, un peu cool. Du coup, je me rabats tout le temps sur cette même nouvelle. Et je pense que la dernière fois que j'y suis allée, enfin que je l'ai relu, mes passages préférés, c'était peut-être il y a 3 semaines. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de régulier et ça dure dans le temps.
Ça dure depuis combien d'années?
Oh là là, fibre.
Bah, j'ai 23 fibre, ans, je pense Michel. Que je l'ai découvert quand j'avais 17-18 ans. Je l'ai abandonné pendant peut-être 2 ans à un moment, mais voilà, c'est efficace, ça me demande peu de recherche.
Moi, je suis un très grand fan de bons plans et je vais beaucoup sur le site Deal Labs. Depuis que je l'ai entendu dans une émission de Studio 404 et j'achète à foison des articles pas chers juste parce qu'ils sont pas chers.
Je me suis refait l'intégrale des S Club 7. J'ai retweeté un des communiqués de la gendarmerie qui disait que les violences policières n'étaient pas vraiment effectives, enfin qu'il n'y avait pas vraiment des violences policières alors qu'on sait très bien que c'est vrai. Oh.
Tu sais, j'ai commencé une série qui s'appelle Girlfriend Experience. C'est l'histoire d'une nana qui se prostitue. Et effectivement, je regarde ça tranquillement dans le train quand je suis tout seul.
J'ai passé un week-end cool avec un mec et quand il est parti, j'ai fait un post ouin ouin sur mon blog sur lui.
J'ai lu un article Vice qui parlait politique.
Ça compte. Moi, contre vous, j'ai regardé les vidéos de la fille qui fait de la mode Phoenix. Enjoy Phoenix. Du coup, à cause de toi, Fibre Tigre, j'ai regardé les vidéos d'Enjoy Phoenix.
Je crois que j'ai découvert le prénom de Fibre Tigre.
J'ai regardé les vidéos de la meuf qui fait la youtubeuse qui fait l'apologie d'Hitler là. Ils ont posté ça sur Slate cette semaine. Et du coup j'ai regardé une vidéo d'elle, je dois le confesser.
Non, j'avoue, sur le Wanted Bon Plan, j'aime bien troller les gens et leur donner des leçons de morale. Après, j'avoue, il y a une meuf qui est pas mal jolie dans mes potes. J'aime bien dire je l'ai en pote, elle.
J'ai honte parce que normalement j'achète tous mes jeux sur un site légal. Voilà, sur Steam, sur GOG, sur d'autres sites Lego. Et là, sur G2Play, c'est des Polonais qui te prennent des clés tombées du camion, c'est ridicule. Et là, en fait, j'avais honte d'acheter un jeu Blizzard. Alors qu'à un moment, je suis Team Valve et ça m'énerve. Donc, du coup, j'ai acheté Overwatch sur un site de Polonais et là, je me sens mal. Mais par contre, la clé est légale, donc du coup, je peux jouer gratos.
Ouais, j'ai un crush sur quelqu'un que j'ai un peu stalké récemment et j'ai un peu honte.
J'ai été stalké un gars que j'ai trouvé sur Tinder qui visiblement faisait des podcasts, mais plus ou moins connu, je savais pas trop. Et du coup, j'ai été le chercher.
C'était
ses podcasts. Et après, je lui ai fait des vannes en fonction de ce que j'avais vu sur lui.
C'est bien.
De manière assez subtile. Et du coup, en fait, ça a gavé mon marché.
Moi, j'ai regardé Enjoy Phoenix.
Ça revient beaucoup. Hein.
Alors, trolling, non. Mais je pense que, comme beaucoup de personnes, ça va être du stalk. Et le stalk le plus hardcore que j'ai eu fait, c'est avec Monsieur le Prof, parce que j'ai une obsession pour trouver à quoi il ressemble. Et j'ai trouvé, grâce à vous d'ailleurs. Et là récemment, j'ai voulu voir s'il serait à cette soirée en allant dans tous les invités de 404 de la soirée pour voir s'il y serait. Et je suis assez fière de moi parce que j'ai pas tenu très longtemps et j'ai arrêté de chercher. Mais il y a plein de gens que j'ai trouvé comme ça. Donc à chaque fois, c'est des affaires de stalking et le pire, c'est que je trouve. Donc,
Ça remonte à très longtemps. Il y a très longtemps, bon. Je suis plutôt jeune, donc il y a très longtemps, c'était en 2007-2008, voilà. j'ai écrit des fanfictions Harry Potter, voilà, donc avec Hermione.
Ça change tout.
J'ai très honte de ça, oui. Donc c'était un pseudo que j'avais à l'époque, c'était pas Snail, mais c'était un pseudo que je n'enverrai à personne. Mes meilleurs amis ne le connaissent pas. Et ne le connaîtront jamais.
Oh non, dommage.
Parce qu'ils peuvent le retrouver vu que le forum existe toujours.
En fait, moi, ce qui me fait honte sur Internet, mais c'est plus genre métaphysique, c'est de perdre tellement ma vie. J'ai l'impression de perdre mon temps et ma vie. Et du coup, quand je réalise à la fin d'une journée où je me suis pas lavé la bite, que j'ai passé 8 heures à faire rien du tout. Je me suis juste branlé 3 fois et je me dis putain, mais ma vie aujourd'hui, franchement, si j'avais pas existé, ça aurait été mieux.
Et une petite passion compulsive pour le stalking. Oui.
Le stalking.
Je regarde compulsivement les tweets d'une personne.
De ton ex?
Non, mais je dirais pas son nom parce que je veux pas quand même la mettre dans l'embarras. Ouais, mais
ça m'emmerdait d'aller en navigation privée sur Pornhub. parce qu'ils n'arrivaient pas à me profiler. Du coup, j'ai créé un profil Chrome juste pour qu'ils puissent me profiler. Et c'est un profil que j'utilise juste pour aller sur Pornhub. Du coup, il a juste une seule adresse pour se souvenir un petit peu des vidéos que j'ai vues.
C'est génial.
C'est pas que j'ai honte, mais j'ai un peu honte de l'effort que j'ai développé rien que pour avoir du profiling sur Pornhub.
Je suis allé à une conférence sur le porno et la réalité virtuelle et j'ai eu peur que mon nom soit affiché.
Si. Non, j'ai posté un selfie que j'ai fait avec Nadine Morano récemment. Voilà, c'est assez honteux. Mais en fait, je l'ai vu dans la rue et je me suis dit, c'est pour la blague, il faut absolument que je fasse un selfie. Et d'ailleurs, elle m'avait demandé, mais c'est quoi un selfie? Et du coup, voilà, pour la blague, j'ai fait le selfie avec elle. Je l'ai posté sur Internet, je pense que c'est la chose la plus honteuse que j'ai faite.
Il y avait une photo qui était assez drôle et j'ai découvert en fait que c'était sur le compte de Justin Bieber et qui avait reposté le truc. Et j'ai mis le truc avec un haha et j'ai même écrit un commentaire.
J'ai dépensé 20 euros pour Clash of Clans.
F2 souche, rien que le fait d'avoir traîné là-dedans, je me suis dit putain, je leur ai donné un visiteur, c'est chaud.
J'arrivais pas trop à me concentrer et j'ai cherché des bruits de sèche-cheveux sur YouTube. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté derrière des vidéos à 1 million de vues en fait. Et ça m'a choqué et c'est trop bizarre. Il y a une vidéo, c'est 10 heures de sèche-cheveux et c'est une expérience à vivre.
Oh putain,
parfait. Vous êtes géniaux.
10 heures de sèche-cheveux sur YouTube.
On a la communauté qu'on mérite. C'est ça. Ouais,
mais sur le forum, il y a un post hein, comme ça sur les confessions intimes.
Sur les confessions intimes.
Et il y a un type que moi j'ai beaucoup aimé et du coup j'utilise aussi ça. C'est, il a dit, je vais sur Le Bon Coin et je tape dans la barre de recherche cause décès parce qu'il y a plein de bons plans.
Il a dit aussi c'était
hyper
marrant.
Bon.
C'était marrant. Il y avait des tables rhinocéros, tu vois, cause décès. Effectivement, tu vas pas la garder, tu vois. Et
On a des bons quand même. Hein.
Ah putain, c'est génial. Bon. Mais continuez, hein, franchement, c'est parfait.
Big up à celui qui ne s'est pas lavé la bite, puis que c'est dans les trois fois.
On le connaît.
Et qui nous a serré la main.
Et qui pense que le monde irait mieux sans lui quand même. Allez, on attaque tout de suite la quatrième et dernière chronique. Et en toute simplicité, Fibre va nous parler de transhumanisme.
Sujet numéro 4.
Le transhumanisme, c'est bien joli, mais ça n'a pas l'air très pratique.
La vie éternelle est à nouveau un trending topic, ce qui n'était pas arrivé depuis le Moyen-Âge. Les églises sont technologiques, le paradis une salle blanche de serveurs, l'opération magique s'appelle le transhumanisme. Ses fidèles sont dans la Silicon Valley, ses papes Clément LOL sont le milliardaire Dimitri Itzkoff ou, dit-on, les fondateurs de Google. Le transhumanisme est une idéologie qui estime que la technologie va étendre les possibilités humaines et éventuellement nous apporter la vie éternelle. Ne demandez pas comment, c'est une question qui fâche. Certains disent que c'est avec le progrès médical, oui, vous allez vivre éternellement, à part qu'on ne sait pas encore soigner les aftes. D'autres disent que c'est en dupliquant notre cerveau dans des ordinateurs, puis en les réinjectant dans des clones, bon, voilà, tout est normal. Ou bien, dans cet article de Slate, qui, rassure-toi, cite le Guardian, eh bien, vous pourriez avoir des nanorobots intelligents injectés dans votre sang pour rajeunir vos cellules et réparer n'importe quel dommage. Vous pourriez implanter un ordinateur et plein d'outils dans votre corps, ce qui vous donnerait des pouvoirs surhumain, où vous pourriez simplement faire évoluer votre esprit en un ordinateur, ce qui pourrait vous permettre d'exister n'importe où et d'expérimenter n'importe quoi. N'importe quoi, tout est dit. Oublions un instant le comment technique et admettons que ce soit possible. Admettons aussi que le problème démographique soit réglé magiquement. Parce que la mort pour tous, c'est aussi de la place et de la nourriture pour tous.
Je vous rappelle que Fibre fait cette chronique toujours avec sa harpe, sa flûte traversière et habite une feuille de vigne. Voilà.
Alors, le think tank 404, branche prospective, étudie aujourd'hui l'impact de l'immortalité technologique sur notre société. Nous sommes en 2050. Notre sujet, Daz, a 70 ans. Il a économisé toute sa vie. Et au lieu de toucher sa retraite, hop, il se clone, injecte sa sauvegarde de cerveau dans son clone et il a 20 ans à nouveau. Forcément, ça a coûté cher. Il n'a plus trop d'argent. Et en plus, l'État français ne va pas payer la retraite d'un type qui est apte à travailler. Donc, il envoie des CV, faisant valoir ses 40 ans d'expérience dans sa vie antérieure, dans des domaines qui n'existent malheureusement plus. Ça s'annonce mal. Sa fille a 50 ans. Elle a du mal à appeler cet ado papa. Ça fait 60 ans qu'il était avec sa femme. C'était super, mais bon, ils se disent que 60 ans, ça fait beaucoup. Donc, ils ont convenu de se séparer. Certains amis, sans le budget ou par fatigue, ont décidé de ne pas rajeunir. Il ne se voit plus. C'est difficile. Alors, Daz rencontre des nanas de son âge, rappelons 20 ans. Son corps est à nouveau plein d'hormones, alors waouh! Mais dès qu'il s'agit de parler, il est paumé niveau référence en films et séries télé. En plus, ils ont l'air si naïfs. On dirait qu'ils viennent tous d'une autre planète. En fait, ils ont repéré le faux jeune dans le groupe. Et à vrai dire, la seule fille de 20 ans qu'il comprend est une fille qui aussi a sa deuxième vie. Le taf, les emprunts, les assurances spéciales, les sacrifices pour pouvoir au bout se payer non pas une retraite et le repos, mais encore un retour à zéro. Il rêve parfois de gagner au loto pour, comme les élites financières de ce monde, vivre un millier de vies de vacances dans un monde où les riches sont immortels et où les pauvres n'auront que la mort. La société des médias, notamment, devient désespérante.
Mélissa, elle en a marre, Mélissa.
Alors que Claire Chazal a 60 ans aujourd'hui et s'accroche comme un bulot à l'écran de télé, comment imaginer notre paysage numérique...
En 50, on regarde encore la télé, hein, j'adore.
Comment imaginer que notre paysage numérique sera quand les Cyprien Norman vivront éternellement? Il n'y aura que des vieux jeunes partout qui refusent de laisser leur place, qui veulent non seulement vivre, mais exister pour toujours. À quoi bon vivre longtemps? Dans un sondage réalisé auprès de 846 personnes sur Twitter, avec quelques trolls, j'en conviens, près de la moitié n'envisage pas de rajeunir, si c'est pour revivre une vie de labeur. Le monde est dur, mais ce n'est pas en vain. Cette souffrance nous a permis d'accepter que tout aura un jour une fin. Ne pas accepter de mourir, c'est refuser de léguer son travail aux générations suivantes, refuser de leur faire confiance, refuser d'admettre qu'il y a mieux après soi. Ce que veut Google et ses Russes, c'est une folie.
Droplink.
Voilà. Tu droplink. Non, tu dois dire life's a bitch and then you die.
C'est voilà.
Voilà.
Donc en gros, tu dis heureusement que la vie est affreuse, comme ça on accepte mieux la mort.
Ouais, on part sans regret.
Voilà, non, mais c'est un point qui est intéressant par contre.
Oui, non, mais en fait, il y a deux écoles.
Traiter de transhumanisme par. Il faudrait pas qu'on vive trop longtemps parce qu'en fait, c'est bien de mourir parce que la vie est dure. Enfin bref.
Non, ce que j'ai voulu traiter, c'est un peu le transhumanisme façon smicard français. Ouais, c'est-à-dire tout le monde dit on va vivre éternellement dans des cités tout en blanc, mais non, si demain t'as 70 ans et tu reviens à 20 ans maintenant à Paris à Bastille là comme oui. Ouais, bah faut trouver un job. Mais
comme n'importe quel early adopter, il y aura des zones de frottement. Bon voilà, c'est normal.
Ça va durer un peu longtemps,
c'est pas. Alors après avoir bien écouté et bien ri à la très bonne chronique de notre ami Fibre sur le transhumanisme vu à travers les yeux renouvelés de Daz. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors évidemment, le sujet est énorme, donc on va en parler de manière pas du tout énorme. Parce
déjà, est-ce que vous accepteriez de rajeunir?
Il y a plein de choses à dire sur le sujet. Je voulais placer un truc intello, je peux?
Vas-y.
Je peux. Notre civilisation occidentale, elle est basée sur deux mythes fondateurs qui s'opposent. Il y a le mythe judéo-chrétien qui est, on est sur la terre pour mourir en fait. Et de toute façon, le vrai bonheur, la vraie vie, il sera, c'est la béatitude, c'est quand on va crever et qu'on va aller au paradis. Et là, on sera heureux. Donc, en fait, notre passage, il est temporaire sur la Terre et on est là pour galérer et se faire chier. C'est notre punition. Et le deuxième mythe fondateur, c'est le mythe prométhéen de la Grèce antique, qui est je vais dérober le feu aux dieux pour.
Le faire manger pour... le foie par un oiseau.
Voilà, exactement. Mais c'est prendre son destin en main, c'est ne pas être fataliste. Et je pense que ceux qui sont pour le transhumanisme et l'immortalité sont des prométhéens et les autres sont des judéens.
À noter que Prométhée aimerait bien mourir, mais bon. Parce qu'en ce moment, il est en train de se faire manger le foie encore.
C'est vrai, ouais. Toujours.
D'ailleurs, ça repousse. Prométhée, si tu nous écoutes.
Big up. Pense à notre Patreon.
on a la bière qui arrive.
Donc, est-ce que t'es un judéo-chrétien ou pas?
Ah, mais moi, je vais pas aller jusque sur ce terrain-là, mais disons que après réflexion, je suis un peu fatigué personnellement, je serais content de ne pas rajeunir à 70 ans.
Voilà. D'accord. Ok.
Non, mais pas rajeunir, mais juste t'assurer de pas avoir, de pas choper des maladies zarbies ou des cancers relous ou des trucs comme ça, tu vois. Et mais oui, aller jusqu'à la mort, mais tranquillement.
Non, mais là,
ne pas souffrir, quoi.
Là, c'est oui ou non l'immortalité. Parce que tu vois,
ah ouais, d'accord,
Clément Apap, les Googliens, tout ça, etc., ils veulent l'immortalité.
Les Googliens, c'est des Mongoliens de chez Google.
Non, mais c'est des mecs, ils veulent l'immortalité.
Mais
c'est
non, Clément, il veut juste des bons drivers dans son Oculus, laissez-le tranquille.
Non, mais Peter Thiel, ouais, l'homme de pouvoir de la Silicon Valley là qui est en train de balancer un procès à Gawker
qui l'a gagné
qui vote Trump et tout, lui ouais effectivement lui il est pour l'immortalité et surtout il est pour la fracture financière ce que tu disais entre les pauvres et les riches, c'est-à-dire que les pauvres vont mourir et les riches vont vivre éternellement.
Il y a beaucoup de films d'anticipation qui ont parlé de ce type de choses.
Ouais.
Mélissa, si tu avais les moyens, est-ce que tu mourrais riche et nature et bio? Ou est-ce que tu te réincarnerais, que ce soit donc à travers une digitalisation de ta conscience ou des corps clonés ou des ghost organs ou des choses comme ça?
Bah moi je voudrais voir quand même.
C'est une question comme ça au déboté un dimanche après-midi.
Non, mais moi je voudrais tester.
Alors,
quoi.
Mais tester au moins une fois.
Tester l'immortalité, ça, ouais, ça va être long comme test hein, du coup.
Non, parce mais que... oui.
Après, mais si ça, en fait, ça me plaît plus.
Non, mais...
deux sur dix. Do not buy.
Non, mais après je pense que tu peux te suicider, tu vois. Non.
Ah oui. Ah bah oui.
Et si
oui.
Tu te suicides et qu'en fait tu te réincarnes sans l'avoir voulu parce que t'as signé un contrat avec le Google de l'immortalité.
Si tu te réincarnes, t'oublies ou t'oublies pas?
Ah bah non, t'oublies pas normalement. parce que c'est une itération.
La réincarnation, normalement, tu...
Ah non, parce que justement, dans la chronique, en tout cas, de Fibre, enfin, le postulat, c'est que si tu te rajeunis, tu te reclones, tu gardes tes compétences, ton expérience, tes souvenirs, tes choses comme ça.
Mais aussi tes responsabilités sociales, c'est-à-dire que tu es obligé de travailler, finalement. C'est pas... Parce que nous, en France, on travaille jusqu'à un certain moment, et puis enfin, il y a la retraite, tu vois.
Mais ça va disparaître.
Oui, ça, immortalité ou pas Fibre, la retraite.
La retraite, on va tous travailler jusqu'à 80 ans.
Bon, en ce moment, c'est une réalité, en tout cas. Et c'est aussi un mythe fondateur de la société française, puisqu'on parle des mythes fondateurs. Donc, on a cet aspect de pré-paradis où on fera plus rien et on sera payé quand même. C'est vrai.
Est-ce
et
que la retraite est prométhée ou judéo-chrétienne?
Non, mais attendez, la retraite, en plus, on a tous envie de travailler longtemps. Enfin, je sais pas pour vous.
Ah bon, dans ce cas-là, tu n'as aucun problème à être immortel.
Tu vois, ça va être ça. La société, ça va être ça. Ça va être les riches qui vont payer les pauvres pour qu'ils aient accès à l'immortalité, pour qu'ils bossent toute leur vie. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a
pas
un mec
comme paradis,
il est pas mal
comme
c'est sûr que c'est pas ouf, mais moi je trouve que
je serais pour l'immortalité, mais dans certains cas, c'est-à-dire pas le mien parce que je vois pas ce que j'aurais à apporter. Par contre, par exemple, dans le cadre de missions spatiales ou de trucs comme ça, faire en sorte que tous les astronautes soient sinon immortels, en tout cas qu'ils puissent vivre au moins 150 ou 200 ans en étant en pleine possession de leurs moyens, je trouve que c'est cool. Pour les foutre dans des fusées, les envoyer aux confins de l'espace et puis
interstellaire quoi,
ça servirait aux générations futures, tu vois.
D'accord, donc des élus.
Ouais.
Enfin,
moi je mettrais des tolards là-dedans quand même. J'en profiterais pour faire 2-3 exercices, enfin 2-3 études sociologiques.
Et toi-même, pas d'immortalité alors?
Ah pour moi, non, c'est relou. En fait, mais ce qui se passerait, si tout le monde est immortel, c'est comme si t'allais avoir dans ta vie tous les jours Twitter, mais dans la vie, tu vois, dans la rue. C'est-à-dire tout le monde est cynique,
c'est ça.
Tout le monde te troll, tout le monde est second degré parce que tout le monde s'en bat les couilles en fait. Ouais, ok, bah, je vais te traiter de nazi, il va se passer quoi? Rien, je vais me faire désactiver mon compte, bah, alors je m'en fous, tu vois. Tu vas voir que des gens comme ça qui...
Parce que ton truc, c'est te dire, si je chope 100 ans de prison, je m'en fous, je suis immortel, c'est ça?
Non, parce que du coup, les gens pourraient se tuer. Et du coup, ils mourraient pas. Donc,
il y aurait des
fusillades qui servent à rien.
Ce serait le Far West.
Ah, tu ferais des sauts à l'élastique sans élastique et tu te rechargerais ensuite, quoi.
Non, mais tu vois, si la vie, elle a plus de fin, ouais, c'est vrai, à quoi bon essayer de la vivre pleinement, tu vois. Tu peux rester dans un.
Alors, de manière, parce qu'évidemment, le sujet est tellement grand qu'on le gratouille le bout de l'aisselle. Mais de manière plus proche, si on pouvait vivre 3 fois plus longtemps.
Bah, d'accord. Ça nous rendrait plus sérieux, je pense, sur des questions. On a une vision.
Imaginons qu'on peut vivre jusqu'en 2300.
Politique, voilà. Écologique, etc. On a une vision très court terme.
Ah, ouais. C'est vrai que c'est pas bête ça.
Et vivre 3 ans de plus, ça nous rendrait
300 ans.
300 ans.
Parce que 3 ans.
Ah bon?
Ah merde.
On peut pas changer de
vision. Je trouvais ça cool.
Comme on vivrait plus longtemps, du coup, on se dirait on pourrait avoir 100 ans d'adolescence. Du coup, on ferait de la merde pendant 100 ans, non?
Non, parce que je pense que du coup, tu te dirais, attends, cette terre que je suis en train de foutre en l'air, dans 200 ans, j'y suis encore, va peut-être falloir qu'on se sorte les doigts.
Donc, il y aura un réveil de conscience. Parce que des gens disent souvent que c'est l'inverse. Si les gens devaient vivre trop longtemps, notre psyché n'est pas préparé à ça. Et on pèterait un câble parce qu'on n'est pas prêt à tenir aussi longtemps.
Je pense que ta psyché, si tu reviens pas au Moyen-Âge, mais pas longtemps après, quand l'âge moyen pour mourir c'était 35 ans, je pense que les gens à l'époque, tu serais allé les voir en disant bah, tu sais, tu pourras vivre le double sans aucun problème. Et les gens, ils t'auraient dit, mais on ne va pas être prêt psychologiquement, tu vois.
Ouais. D'accord.
Et puis même avec
je pense qu'on s'adapte. L'homme s'adapte. Hein.
C'est vrai.
Notre vie numérique, je pense qu'on a réussi à compresser le temps aussi. Et qu'en fait, par rapport à l'époque pré-internet, on vit déjà 3 fois plus longtemps parce qu'on consomme énormément de choses, de contenu, on rencontre beaucoup plus de gens.
La fameuse blague de l'âge du chat sur Internet.
On a plusieurs travails, on a plusieurs vies dans une même vie, etc.
Est-ce qu'on n'aurait pas l'exercice inverse? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrête de fumer et de mal manger parce qu'on espère vivre 5 ans de plus? Est-ce que si on a la certitude de vivre 300 ans, est-ce qu'au contraire on va cloper, prendre de la drogue, tout
c'est pas impossible. Ça change,
en mode fin du monde.
Mais pour revenir sur le numérique, parce que c'est quand même l'ADN de notre émission, on parlait de rythme de vie, c'est intéressant ce point. Est-ce que t'es d'accord, Fibre, avec Sylvain, sur le fait que déjà on vit pas plus longtemps, mais on vit plus de choses, on vit de manière plus dense, et on vit peut-être 2 vies aujourd'hui par rapport à nos générations d'avant, avec le numérique.
Dans la chronique de Mélissa, où je disais que quand j'éteins la connexion, j'ai l'impression qu'il y a une perte de densité dans le monde.
Ouais.
Et dans la réalité, besoin de ma densité à nouveau, donc effectivement, tout à fait.
Très très beau.
Donc on pourrait vivre de manière plus dense et plus longtemps, ça fait beaucoup de choses quand même.
Ben, on a beaucoup de chance, on a vraiment beaucoup de chance de vivre à notre époque. Voilà. Et dans notre pays, Paris privilégié.
What a time to be alive.
Notre Paris privilégié. Bon, on attendra les avis des gens. Voilà. Tu leur proposes de quoi? De vivre plus longtemps?
Est-ce que vous seriez d'accord pour vivre à nouveau une deuxième vie, sachant que vous allez devoir retravailler à nouveau et repartir à zéro dans le labeur?
Toujours payer des taxes. On attend en tout cas vos réactions sur le forum de qualité.
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'était l'émission du mois de juin de Studio 404. Nous avons touché des grands problèmes de manière très légère et très gracieuse. Le transhumanisme, la digital detox, le web 01.3.9x2.
C'est ça.
Les contrôleurs de jeux qui ne changent jamais en tout cas. On attend vos avis sur le forum. Vous êtes très nombreux en tout cas sur le forum, ça nous fait très plaisir.
Ouais.
Pour revenir sur le grand plan de qualité, donc ça avance de notre côté, donc on vous tiendra au courant de nos petits projets qui arrivent et on espère en tout cas vous retrouver dès la rentrée. Il y aura pas d'émission cet été, vous partez tous, c'est ça?
Et ouais, on part tous, c'est la dernière émission de la saison.
Aïe aïe aïe.
C'était le season final.
Les vacances, quoi.
Pas de gros cliffhanger.
Mais on aura du travail.
Il y a pas de personne non, il y a pas de fibre tigre et fils de Targaryen ou un truc un peu fort pour la
Personne n'est mort.
Non, mais à la rentrée, il va y avoir un membre de l'émission qui ne fera plus partie de l'émission.
Voilà.
Et il sait lequel. Voilà.
On savait pas.
Faudra voter. Voilà.
Faudra voter. Tu vois, Fibre, il dit faudra voter pour déconner. C'est lui qui va se faire agiter. Il va être deg. Allez, à très vite et bonnes vacances.
Bisous. Ciao.
Bye bye.